des questions de santé. Mais là, je ne suis pas du tout journaliste, mais je reste un petit peu dans le monde de la santé. Et donc, j'ai le plaisir d'animer ce débat assez inédit et assez particulier, cette soirée débat autour de la question des directives anticipées. Des directives anticipées, parlons-en. L'idée n'est pas du tout de passer une heure et demie, voire deux heures, où il y aurait quelques experts qui vous raconteront ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire. Non, on est avec les directives anticipées dans quelque chose de très inédit, de très nouveau, comme une sorte de monde un peu souterrain, de monde un peu silencieux. Voilà, le législateur a prévu que on peut, dans certaines circonstances, écrire quelque chose autour de la façon dont on a envie dont on peut mourir, avec évidemment cette énorme particularité que l'on a depuis un certain temps. C'est qu'il y a un nouveau contexte aujourd'hui dans la mort, c'est l'univers médical, les médecins. Voilà, les médecins ont quelque chose à dire. Et donc, voilà, il y a cette possibilité de ces directives anticipées, d'écrire quelque chose. C'est le législateur, est-ce que c'est une bonne idée? La question est ouverte, est-ce qu'il faut en écrire? La question est ouverte, qu'est-ce qu'il faut en dire? Qu'est-ce qu'il faut écrire? Qu'est-ce qu'il faut, à qui? Voilà. L'idée de cette soirée est très claire parce que elle est donc lancée autour de l'espace de réflexion éthique et du centre de soins palliatifs et de fin de vie avec un objectif très très précis. C'est pas de vous donner la parole par plaisir, mais c'est on a besoin de savoir qu'est-ce que les gens n'importe qui pensent de ça. Est-ce qu'ils vont en écrire, voilà, c'est quelque chose d'un peu personnel. Et donc l'idée est qu'il y ait quelques interventions au début, courtes, mais des interventions aussi personnelles, puisque voilà, c'est pas, on va pas parler de la mort en général ou de la fin de vie en général, mais de ce qu'on chacun se projette. Et puis ensuite de vous donner la parole, de discuter, de s'il y a des gens qui veulent témoigner, s'il y a des gens qui veulent, voilà. En tout cas, pour commencer, d'abord Véronique Fournier. Véronique Fournier est la directrice du Centre des soins palliatifs et de fin de vie. Elle est avec elle et avec quelques autres ici. On va parcourir la France et faire une bonne quinzaine de débats autour de cette question des directives anticipées cette année. Et donc, au tout début, elle va vous présenter un petit peu ce que dit la loi. Et puis surtout que la loi a un petit peu changé. Elle est devenue un petit peu plus directive, peut-être. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle en pense? Puis après, René Robert, que vous connaissez, qui est donc chef du service de réanimation, réanimateur, et qui donc... Chef réanimateur. Il faut toujours faire attention au titre, ça fait toujours plaisir, surtout quand ils ne sont pas volés. Voilà. Et donc lui est d'autant plus important ici, puisqu'il cumule la double fonction de vice-président de l'espace de réflexion éthique, mais aussi de vice-président... De ce qu'on appelle le COS, qui est un conseil d'orientation autour du centre de soins de vie, du centre des soins palliatifs et de fin de vie. Ces sigles sont impossibles. Il y a Dolores Albarrancin qui va nous expliquer pourquoi elle a écrit ou elle n'a pas écrit des directives anticipées. Camille Desforges, qui est praticien hospitalier en service de soins palliatifs, et qui va nous dire un petit peu qu'est-ce qui remonte de son service. Est-ce que c'est une bonne idée? Parce que, bon, le législateur n'a pas toujours des bonnes idées. Peut-être que c'est directive anticipée. Parce que, quand même, le point de départ, mais ça, je vais laisser la parole à Véronique, c'est que tout le monde trouve que c'est une bonne idée, les directives anticipées, mais la très grande majorité des gens n'en écrivent pas. Il y a donc bien quelque chose, mais peut-être c'est une bonne idée d'avoir une possibilité et de ne pas toujours s'en servir. Véronique, à toi, pour un peu présenter le contexte, et puis après...
Je crois que je vais dire à peu près la même chose que toi, hein, avec d'autres mots peut-être, mais merci pour cette introduction, merci à vous tous à Poitiers d'avoir organisé cette soirée, d'être venus nombreux pour discuter avec nous. Comme vous l'a dit Eric, l'idée c'est vraiment de vous entendre, et pas de parler trop longtemps. Alors, quelques mots d'abord sur le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie. Pour ceux qui n'ont pas suivi les choses administratives de très près, c'est une nouvelle structure qui a été créée par décret en janvier 2016, donc il y a tout juste un an, à peine un peu plus d'un an, et qui a été créée dans le cadre du grand plan soins palliatifs 2015-2018, Vous savez, régulièrement, en France, on lance des grands plans. Il y a les plans cancer, les plans pneumologie, les plans pédiatriques, et puis il y a aussi les plans soins palliatifs. Et donc, on en est au quatrième, si ma mémoire est bonne, au quatrième plan soins palliatifs, et c'est le plan 2015-2018 qui a été annoncé par la ministre de la Santé en décembre 2015. Et la première action de ce plan consiste à créer un centre national des soins palliatifs et de la fin de vie. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a comme mission, ce centre national ? On ne va pas rentrer dans le détail des missions, mais il a au moins deux missions importantes, au titre desquelles nous sommes là ce soir. Premièrement, il a une mission d'information et de communication avec tous les citoyens pour leur faire connaître leurs droits en matière de fin de vie. Et donc, voilà, nous y sommes. Et il a une deuxième mission importante, qui est de participer à l'évaluation des politiques publiques en matière de fin de vie. Et donc, pour évaluer les politiques publiques, ben finalement, ce n'est pas si mal de demander aux gens à qui elles s'adressent si, comment ils les trouvent. Voilà pourquoi nous sommes là ce soir. Donc, informer et communiquer à la population sur leurs droits en matière de fin de vie, nous avons fait ça un peu, nous avons commencé à faire ça au Centre national grâce à une grande campagne de communication que nous avons lancée récemment, et j'espère que vous l'avez vue, parce que maintenant elle est arrêtée pour cause de campagne électorale. En tout cas, elle est arrêtée à la télévision. Mais donc, cette grande campagne de communication a eu lieu avec ce message. Et si la fin de vie, personne n'aime en parler, mais si on en parlait. Et la fin de vie, si on en parlait. Et donc, nous avons pensé que peut-être une seule campagne d'un mois, ça ne serait pas suffisant, et que c'était peut-être important d'aller rencontrer les gens pour continuer ce travail d'information et de discussion autour de la loi. Voilà. Alors, pourquoi les directives anticipées ? Eh bien, nous avons choisi cette année d'aller à la rencontre des citoyens sur ce sujet des directives anticipées, parce que c'est une des dispositions nouvelles de la loi de 2016. Il y aura, je pense, l'année prochaine, un cycle sur un autre thème, et peut-être l'année d'après encore sur un autre thème, parce que la fin de vie pose plein de questions. Mais cette année, ce thème, c'est les directives anticipées. Alors, qu'est-ce que c'est que ce dispositif des directives anticipées ? Je pense que tous ceux qui sont dans la salle savent à peu près ce que c'est, sinon ils ne seraient pas là. Mais néanmoins, juste pour mémoire, c'est un dispositif qui est dans la loi depuis 2005 en France, hein, depuis la première loi relative à la fin de vie, la loi dite Leonetti. Et la loi Leonetti a pour la première fois écrit un article disant « Chacun a le droit d'écrire ce qu'il voudrait qu'on décide pour lui lorsqu'il sera en situation de fin de vie, s'il n'est plus capable de le dire lui-même. » C'est ça qu'a dit la loi Leonetti. Et ensuite de ça, ce dispositif a donc, vous voyez, un certain temps maintenant, mais en 2016, le législateur a quand même éprouvé la nécessité de réviser ce dispositif introduit 10 ans plus tôt. Pourquoi ? Parce que, comme vous le disiez, Eric, même si c'était très clair et même si c'était une possibilité ouverte aux citoyens, personne n'écrivait de directive anticipée. Et donc on a dit, les gens n'ont pas écrit de directive anticipée parce qu'ils ne connaissaient pas la loi. Ils ne savaient pas que c'était une possibilité. D'où l'idée de lancer une grande campagne de communication et d'où l'idée au Centre national de dire, bon, eh bien on va en rajouter encore une fois dans l'information, on va aller rencontrer les gens pour leur dire, vous avez le droit d'écrire. Mais il y a peut-être une deuxième raison qui fait que les gens n'ont pas écrit de directive anticipée malgré la loi Leonetti de 2005. À l'époque, les directives anticipées étaient un dispositif non contraignant. C'est-à-dire que le médecin n'était pas obligé de prendre des décisions conformes aux directives anticipées écrites par le patient. Il pouvait, s'il l'estimait, passer outre, s'il l'estimait raisonnable. Et donc les directives anticipées n'étaient qu'une indication. Et le médecin devait tenir compte de cette indication, devait demander s'il y avait des directives anticipées, mais il pouvait, une fois de plus, s'il estimait que ces directives n'allaient pas dans le sens du meilleur intérêt du patient, il pouvait décider autre chose. Et donc les gens ont dit, bah, c'est normal qu'on n'écrive pas de directive anticipée, puisque le médecin peut passer outre. On ne voit vraiment pas pourquoi ça serait la peine de les écrire. Qu'est-ce que c'est que ce législateur qui, en même temps, nous propose d'écrire, ce qui est quand même une démarche pas si évidente, pour nous dire, ben, c'est pas sûr que le médecin en fasse quelque chose après. Et donc, la loi Claeys-Leonetti, dans sa révision, l'une des premières choses qu'elle a faites, et de façon assez consensuelle, toutes les institutions qui avaient été sollicitées pour savoir ce qu'elles en pensaient, ont dit la même chose. On dit à partir du moment où la loi propose un dispositif de directive anticipée, où on demande aux gens d'écrire, la moindre des choses, c'est de faire ce qu'ils demandent qu'on fasse pour eux, puisqu'ils ont pris la peine de réfléchir à ça. Et donc, dans la loi Claeys-Leonetti, les directives anticipées sont devenues plus contraignantes pour le médecin. Pas totalement contraignantes, mais nettement plus contraignantes. C'est-à-dire, le médecin, avant, il consultait les directives, et si ça allait dans son sens, ou s'il pensait qu'elles étaient raisonnables, il les appliquait. Maintenant, c'est l'inverse. Le médecin doit les appliquer, sauf si. Donc, on est passé dans la situation inverse. Et sauf si, il a une bonne raison de ne pas le faire. Et il doit expliquer sa raison. Et il doit l'expliquer à ses collègues, il doit pouvoir l'écrire dans le dossier, et éventuellement pouvoir vraiment asseoir sa décision et la défendre devant des gens qui lui diraient « mais pourquoi vous avez passé outre ?» Donc c'est une disposition qui change assez radicalement l'intérêt des directives anticipées et surtout qui manifeste très fortement le changement essentiel de cette loi Claeys-Leonetti par rapport à la précédente. La loi Leonetti, d'une certaine façon, on a beaucoup dit que c'était une loi qui accompagnait la décision médicale et qui aidait les médecins. Là, dans la loi Claeys-Leonetti, ce que dit le législateur très fermement, il dit c'est au patient de décider comment il veut mourir. Et c'est à lui de tenir le curseur et d'indiquer aux soignants ce qu'il veut. Du reste, les directives anticipées sont faites pour cela. C'est ça que le législateur a tenté de signifier avec cet changement important sur les directives anticipées. Il y a un deuxième changement sur les directives anticipées dans la loi Claeys-Leonetti qui est plus marginal, mais qui est quand même important quand on en parle, c'est qu'avant, les directives anticipées, elles devaient être révisées tous les 3 ans. Et si elles étaient plus anciennes que 3 ans, elles n'étaient plus valables. Aujourd'hui, les directives anticipées sont valables sans limite de temps. Vous pouvez les écrire et 10 ans plus tard, elles sont toujours valables. Sauf si, au dernier moment, vous changez d'avis. Et c'est évidemment toujours votre dernier avis qui compte. Et c'est évidemment toujours la parole orale qui prend le pas sur l'écrit. Donc ça, c'est aussi très important à savoir. Donc, même si vous avez écrit des directives anticipées, même si elles ne sont pas très anciennes, si, en situation, vous dites « je ne suis plus d'accord avec moi-même », c'est votre dernier avis qui compte, c'est celui que vous exprimez par oral. Voilà, donc ça, c'est les modifications de la loi Claeys-Leonetti sur les directives anticipées. Alors, c'est pour cela qu'effectivement, nous pensons que c'est important d'aller à votre rencontre et de discuter. Non pas de discuter, on peut répondre évidemment à toutes vos questions, et c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir, si vous en avez. Mais au-delà de vos questions, ce qui nous intéresse, comme l'a dit Eric, c'est qu'est-ce que vous en pensez de ce truc-là? Est-ce que ça vous semble utile ou pas? Pourquoi oui? Pourquoi non? Parce que finalement, vous voyez que le législateur, il a essayé de bien faire avec ça. En vous proposant d'écrire des directives anticipées ou de vous offrir la possibilité d'en écrire, il s'est dit comme ça, les gens vont pouvoir être respectés dans leur volonté. Mais pourtant, les gens n'écrivent pas. Et donc, pourquoi ils n'écrivent pas? C'est qu'il y a des bonnes raisons. Eh bien, il y a plein de bonnes raisons. Je suis sûre que vous allez nous en donner plein. Je ne vais pas vous les souffler d'avance. On en a entendu déjà un certain nombre à Bordeaux. Et on va en entendre dans les différents débats dans lesquels on va aller. Mais c'est de cela dont il s'agit ce soir. C'est d'essayer de bien comprendre quel intérêt elles peuvent avoir pour vous ou quelles limites. Il y en a qui disent, les autres diront pour moi. Il y en a qui disent, on fait confiance au docteur. Mais il y en a qui disent, pas du tout. De toute façon, enfin vous verrez ce que vous allez dire les uns et les autres. Et c'est de cela dont on va parler ce soir. Et une fois de plus, ça c'est la deuxième mission du Centre National des Soins Palliatifs et de la Fin de Vie. C'est de venir à votre rencontre pour faire remonter ce que vous pensez de ce dispositif comme dispositif de politique publique sur cette histoire de fin de vie. Et voilà, si vous allez vous en servir ou pas, ou si vous voudriez d'autres dispositifs plus appropriés éventuellement.
Merci Véronique. Excusez ma voix un peu enrouée. Je vais faire des directives anticipées pour que les médicaments pour le rhume marchent. René Robert, dites-nous, alors vous avez écrit des directives anticipées. Alors, Ce serait intéressant de vous entendre, c'est sur deux points. C'est pourquoi ? Est-ce que simplement ce qu'on vous l'a demandé ? Mais c'est aussi au regard de votre expérience de réanimateur. Voilà. Est-ce que, peut-être que ça a joué, ou bien c'est votre histoire plus personnelle. Mais donc, pourquoi vous avez écrit ?
Alors, au départ, je voulais, en écrivant mes directives anticipées, essayer de me débarrasser de mes casquettes de réanimateur et puis de personne qui ait réfléchi particulièrement sur les problèmes éthiques. Mais je reconnais que mes deux casquettes m'ont servi. Réanimateur, parce qu'on est confronté à des traitements un peu spectaculaires. Et puis la réflexion, elle est importante et elle m'a aidé à me pousser moi-même dans mes retranchements. Alors, pourquoi je les ai écrites ? Finalement, c'est venu par une anecdote. Il y a M. Varane, qui est le rédacteur en chef du journal 7 à Poitiers, m'a dit voilà, est-ce que cette année, vous seriez d'accord pour être chroniqueur pour 7 à Poitiers et nous écrire des petites chroniques toutes les 7 semaines ? Alors, j'ai dit chouette, parce que j'aime bien jouer un peu avec les mots. Et puis, le jour est arrivé, la première chronique. Mais vraiment, tout de suite, je me suis dit, tiens, je vais les faire sur les directives anticipées, parce que c'est un sujet qui me préoccupe. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, parce qu'on ne sait toujours pas ce qu'on va écrire. Et puis, je me suis dit, finalement, pour parler d'un sujet sérieux, il faut peut-être prendre un contre-pied. Et donc, je les ai écrites en faisant des pirouettes. Alors, peut-être qu'en première lecture, c'est des pirouettes qui ressortent en premier. Mais finalement, le fond me paraissait important. Et puis finalement, c'est l'état d'esprit qu'on a un petit peu dans le spot publicitaire, puisque finalement, c'est sur un ton apparemment désinvolte qu'on peut approfondir ou approcher des sujets très sérieux comme la fin de vie. Donc finalement, j'ai utilisé cet exercice pour dire mes directives anticipées. Alors maintenant, si je dis ce que j'y ai mis dedans et pourquoi j'ai mis dedans, je retiens quatre points. Le premier, c'est que j'ai voulu les écrire, mais si je n'avais pas voulu, j'aurais choisi un autre sujet. Le deuxième, c'est que je me suis dit, directives anticipées, mais je ne suis pas malade. Ou en tout cas pas trop. Si j'écris mes directives anticipées en pensant à toutes les maladies qui existent et à toutes les situations que j'ai connues en réanimation ou en dehors de la réanimation, j'ai pas fini, quoi. Donc j'ai trouvé que c'était compliqué. Je me suis dit aussi, si un jour malheureusement j'ai une maladie sérieuse ou grave et que je serais obligé d'avoir un certain nombre de traitements parfois difficiles à supporter, sûrement que j'aurais une autre façon d'écrire mes directives anticipées, mais pour l'instant, fort heureusement, j'ai pas tout ça. Alors donc, le troisième point, c'est me dire, je ne veux pas mettre dans mes directives anticipées des choses qui sont évidentes, quoi. Et c'est ce que j'ai essayé d'écrire quand j'ai marqué ça, c'est-à-dire je ne veux pas souffrir. Évidemment, je ne veux pas souffrir, mais personne ne veut souffrir. Je n'écris pas mes directives anticipées et je ne veux pas souffrir non plus. Donc je me suis dit que c'est sûrement pas quelque chose à mettre dedans. Il ne faut pas mettre les évidences. La deuxième évidence que je ne voudrais pas mettre dans mes directives anticipées, c'est je ne veux pas d'acharnement thérapeutique. Alors bon, le terme n'est pas très bon, mais enfin il dit bien ce qu'il veut dire, donc je l'utilise quand même, mais on peut discuter si vous voulez là-dessus. Et donc, j'espère que les collègues qui me prendront en charge auront bien ancré dans leur esprit qu'il ne faut pas faire d'acharnement thérapeutique dans certaines situations. Et donc, au final, qu'est-ce qui reste et qu'est-ce que je veux écrire et qu'est-ce que j'ai écrit dans ces directives anticipées ? Quel est pour moi le point fort et le message fort que j'ai écrit ? J'ai écrit que si j'ai des lésions cérébrales très importantes, qui m'empêche de réfléchir, de communiquer, d'avoir de l'émotion, d'échanger avec mes proches, ça j'en veux pas. Et si je suis dans cette situation, je voudrais qu'on arrête tous les traitements qui jusque-là étaient ou qu'on m'avait administrés et qu'on m'accompagne dans ma fin de vie et que ça dure pas trop longtemps. Voilà.
René, est-ce que vous avez le sentiment que vous le faites pour vous ou pour les autres, pour vos proches ?
Les deux. Clairement, je le fais pour moi parce que c'est ma conviction. Et c'est vrai que dans certaines situations, ben dans la situation à laquelle je faisais référence, je suis persuadé, avec mon esprit un peu cartésien scientifique, que si je suis dans l'état neurologique que je vous ai décrit, je ne peux rien ressentir. Donc finalement, à la limite, moi, ça ne serait pas important. Mais donc, par contre, mes proches, pour eux, c'est insupportable comme situation. Je ne veux pas imposer ça à mes proches. Et d'ailleurs, je ne veux pas imposer ça à la société non plus, si on poussait un peu la réflexion sur ce terrain-là.
Je peux lui poser une question ?
Oui, tu peux. On ne peut pas dire non. Ils sont médecins, les médecins.
Mais la question, c'est que si on était sûr que ça dure toujours, on serait tous d'accord pour arrêter. Mais la question, c'est que parfois, la médecine est incertaine.
Oui, ok. Bien sûr, mais il faut accepter ça. Il faut faire confiance aux équipes. Et c'est vrai qu'il y a des fois des zones grises qui font que les décisions sont compliquées. Mais déjà, si moi, je transmets un certain état d'esprit assez fort sur ça, je veux bien même, parce que j'ai réfléchi à ça aussi, faire l'impasse sur des... C'est difficile ce que je vais dire, hein, mais je l'assume et je le pense sincèrement. Je veux bien faire l'impasse sur des programmes médicaux qui n'existent pas encore à ce jour. Parce qu'on avait dit, si un jour on trouvait la réparation du neurone et qu'on trouvait le salon de l'agriculture pour faire pousser les neurones, ok, c'est possible, mais tant pis, quoi. Moi, je suis au moment où je suis dans la société, ça n'existe pas. Et tant pis si on trouve ça alors que j'en ai pas bénéficié, ça sera pour les autres. Donc ça, j'accepte complètement et j'accepte aussi l'absence de certitude absolue dans certaines situations. Cette espèce de courant qui fait référence à ce que j'ai dit. Voilà, moi, je peux pas penser, je peux pas réfléchir, je peux pas communiquer. Et donc, pour moi, dans cette situation-là, la vie n'a pas de sens et je n'en veux pas de cette vie-là.
Merci beaucoup. Alors, Dolores Albarancin, je prononce bien votre nom.
C'est pas bien écrit.
Je suis désolé. Vous êtes psychologue, mais alors vous n'avez pas envie d'écrire de directive anticipée. Ou peut-être que vous avez envie, ou peut-être...
Ah non, je ne dirais pas que je n'ai pas envie. Je dirais juste que je ne les ai pas écrites.
Ça marche, les micros ?
Ou alors on peut enlever, je préfère. Voilà. Donc, je ne dirais pas que je n'ai pas envie d'écrire mes directives anticipées. Je ne les ai pas écrites. Et ce n'est pas le fruit d'une décision mûrie, d'une prise de position ou d'un refus. Je ne les ai pas écrites. Et puis René Robert m'a invité à cette table ronde et il m'a proposé de réfléchir aux raisons pour lesquelles je ne les ai pas écrites. Donc me voilà. donc c'est très important, ce n'est pas une prise de décision mûrie. J'ai juste donc réfléchi pour vous, pour nous et pour moi surtout, non pas aux raisons qui font que je ne les ai pas écrites, mais surtout aux questions que cela soulève pour moi, qu'elles soulèvent pour moi. Et donc, évidemment, des questions personnelles, ce qui fait que j'ai pris mes petites notes pour ne pas trop me déstabiliser moi-même, parce que, voilà, évidemment, il y a des raisons surtout personnelles d'abord, avec ces questions éthiques, et j'ai d'abord réfléchi au terme, au mot, directive anticipée. Il y a deux mots qui me gênent, en tout cas qui m'interrogent. Et d'abord, ce mot directive qui implique pour moi, dans mon imaginaire de non-médecin, donner des indications sur médicales, en quelque sorte, de nature médicale hypothétique, qui m'est évidemment difficile. Je suis encore assez jeune et bien portante. J'ai du mal, évidemment, à envisager finalement les décisions médicales de ma fin de vie. Peut-être que là, je prendrai des décisions sur des lésions cérébrales, dont je ne connais rien de toute façon, mais qui vont peut-être être... je me renseigne, je parle avec René Robert, et donc je me dis, ah oui, effectivement, quand je t'ai entendu, je me suis dit, ah bah oui, moi non plus, je ne veux pas de ça. Mais en même temps, j'écris ça et je me dis, est-ce que au moment où effectivement elles vont être... appliquer, on va dire. Est-ce que ces décisions, est-ce que cette indication concernant la lésion cérébrale, est-ce qu'elle va être vraiment utile? Ça se trouve, mon état médical va être complètement différent et donc ce que j'aurai écrit aujourd'hui n'aura absolument aucune utilité pour demain. Donc c'est la procédure médicale qui peut être un peu parasite le non-médecin et quand on n'est pas évidemment familiarisé avec la chose. Et même si je savais, si je connaissais les procédures médicales, etc., je ne suis pas sûre de savoir ce que je ressentirais vraiment le jour venu, ou mes proches évidemment aussi. Alors évidemment, rationnellement, je suis pour la sédation profonde et continue, même si elle abrège quelques jours ma vie, mais parfois je me dis, ah bah tiens, un jour de plus, si c'est pour voir mes filles une dernière fois, c'est peut-être pas un jour de trop. L'acharnement thérapeutique, où j'ai l'impression qu'on l'appelle obstination déraisonnable, bon, c'est peut-être pas la même chose, hein, mais bon. Voilà, le mot qui a changé. Bon, je suis évidemment contre l'obstination déraisonnable, mais bon, je voudrais qu'on y croit quand même un peu le jour venu et qu'on y croit un peu, même si ce n'est pas toujours raisonnable. Hein. Par ailleurs, le mot anticipé aussi, voilà, m'a fait réfléchir. Alors, quel est le bon moment pour les écrire? Peut-on vraiment anticiper hein, ce qui va advenir de nos vies le jour de leur terme? Évidemment, quand on est jeune et bien portant, on n'a pas envie de préparer sa mort, mais je ne suis pas sûre non plus qu'à 90 ans, j'aurai encore ou enfin le désir de m'y pencher, hein, me connaissant. Donc, mais peut-être, hein. Mais c'est vrai que c'est difficile de le penser maintenant, effectivement, je pense que je vais évoluer aussi, enfin, comme chacun, mais après, voilà, il y a des expériences de vie plus ou moins douloureuses, comme nous tous, voilà, j'ai accompagné mon frère la dernière nuit de sa vie et j'ai bien vu combien il s'est débattu jusqu'à la fin. En tant que psychologue, j'ai aussi travaillé auprès de personnes gravement malades et donc j'ai vu, hein, comme nous tous, comme les praticiens ici aussi, qu'on peut tout à fait vouloir mourir le matin parce qu'on souffre beaucoup. L'après-midi, on est enfin soulagé, donc on se met à faire des projets d'avenir avant de mourir juste après le soir. Donc voilà, ce sont des situations aussi qui interrogent hein, sur finalement notre comportement ou notre vécu à l'égard de la mort qui est toujours évidemment assez ambivalent. J'ai accompagné aussi des enfants qui mouraient avec des parents désespérés qui évidemment jusqu'au bout, ils ont cru au miracle, même si rationnellement ils n'y croyaient plus. Donc voilà, ce sont des situations qui interrogent sur finalement notre rêve d'immortalité qui est un peu niché au fond de nous, plus ou moins consciemment. Et je pense que la médecine, en tout cas ce qu'on médiatise des progrès de la médecine aussi peut-être entretient un peu ce rêve d'immortalité. Hein. C'est-à-dire que les progrès de la médecine, voilà, ces exploits qui sont quand même assez considérables en termes de dépistage, prévention, traitement, enfin, au cours des dernières décennies, bah, je pense qu'effectivement on entretient en quelque sorte cette croyance un peu folle de l'immortalité. Évidemment, c'est pas encore la réalité, mais en tout cas, il y a cette espèce de promesse de qu'un jour, on va peut-être faire pousser des neurones au salon de l'agriculture. Donc voilà, dans ce contexte un peu social, enfin culturel aussi, hein, du savoir médical, de l'importance qu'a aussi le savoir médical pour nous tous, comment finalement accepter les limites de la médecine, les limites de tout un chacun, voilà, comment finalement essayer de rationaliser et anticiper ce qui est voilà, finalement si intime, irrationnel et du coup difficilement aussi généralisable par décret. Alors après, je finirai avec ça, je me suis aussi posé des questions, comme nous tous, un peu des questions de société, même si on n'est pas spécialiste, mais c'est vrai que voilà, je suis enseignant-chercheur à l'université, je m'intéresse à des questions, voilà, ces questions de fin de vie, et j'ai aussi entendu écouter des médecins en parler, des directives anticipées, lu des études sur le fait que les médecins en tiennent peu compte. Alors peut-être effectivement ça va changer hein, depuis le fait qu'elle soit maintenant contraignante pour les médecins. Mais en tout cas, même dans les pays où elles existent depuis longtemps, elles sont peu suivies aussi par les médecins. Donc il n'y a pas uniquement le problème de directives qui sont peu écrites hein, par nous tous, mais aussi effectivement parfois peu suivies, parce que parfois, bon, il y a plein de raisons que les médecins pourront expliquer ici. Et à ce propos, je me suis entretenue avec un oncologue de Houston, Eduardo Bruera, qui m'a évidemment, avec le pragmatisme américain aussi, tenu un discours très sceptique sur ce dispositif. J'ai aucune idée de la pertinence de la chose, et en plus on ne peut pas comparer les systèmes de santé, et encore moins les dispositifs évidemment de directives anticipées. Hein. Mais en tout cas, ça m'a marqué ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, tu sais, Dolores, on a la fonction médicale est très complexe, on a à la fois des impératifs de soins et d'argent, hein, et, a fortiori aux États-Unis. Les directives anticipées, c'est le législateur qui veut en quelque sorte se dédouaner de sa responsabilité à l'égard des citoyens pour évidemment limiter les coûts hein, de la fin de vie et en quelque sorte limiter les coûts pour les compagnies d'assurance. Donc j'en suis ressortie de cette conversation un petit peu déprimée puisqu'évidemment il m'a dit t'inquiète pas, ça arrive en France dans quelques années, c'est bon. Après m'avoir expliqué combien les patients s'endettaient et les enfants des patients s'endettaient pour des millions de dollars, effectivement, après le décès du patient. Donc voilà, c'est une question vraiment... Voilà, je me suis posée, bon, l'être humain a un prix, la population vieillit, enfin, il y a un coût. Aussi, évidemment, à la prise en charge des patients en état de dépendance. Il y a un intérêt économique aussi. Donc, je pense que ce débat doit être engagé avec honnêteté et prudence, avec le législateur aussi, puisque, effectivement, médecin, législateur, citoyen, journaliste. Parce que je pense qu'effectivement, vraiment, et je pense que le mot a été employé tout à l'heure, je me suis dit à la fin, et je conclue avec ça, c'est, je pense que finalement cette affaire est une question de confiance. Confiance en les législateurs sur le fait qu'ils vont penser au sujet autant qu'aux finances, ou plus qu'aux finances. Bon, je suis un peu naïve. Confiance en une loi dont les contours d'application puissent rester souples et adaptés à chaque cas. Confiance, évidemment, en une médecine humaniste avec des professionnels qui se posent, évidemment, la question de... En tout cas, qui sont ouverts au questionnement éthique, et je crois que la plupart d'entre eux le sont. Confiance en nos proches aussi, qui sauront peut-être, le jour venu, prendre les bonnes décisions, puisqu'ils savent en quoi, quelles sont nos valeurs. Finalement, on partage avec les proches nos valeurs, et puis finalement, ils savent en quoi nous croyons, quel est le sens de notre vie, etc. Mais, et je finis avec ça, je me suis dit, bon, si tout cela est une affaire de confiance, à quoi ça sert de rédiger les directives anticipées. Donc voilà, c'est le serpent qui se mord la queue. Voilà. Merci.
Merci beaucoup.
Est-ce que je peux réagir ?
Oui, tu peux réagir.
Dolores a dit quelque chose de très important et que j'ai oublié de préciser dans mon introduction. Elle a tout à fait raison. Les directives anticipées, initialement, comme les Living Wills aux États-Unis, ça a été fait essentiellement pour... que les patients puissent refuser l'obstination déraisonnable. Sauf que aujourd'hui, les choses ont pas mal changé et qu'il y a pas mal de gens qui demandent au contraire de l'obstination déraisonnable et que vous pouvez tout à fait écrire dans vos directives anticipées que vous souhaitez la poursuite des traitements et non pas l'arrêt des traitements. Et donc, c'est quelque chose qui est nouveau, qui a été rajouté aussi dans la loi Claeys-Leonetti, alors que ça n'existait pas précédemment et qu'il était juste proposé de pouvoir écrire ce qu'on souhaitait pour limiter et arrêter les traitements. Mais maintenant, il est stipulé qu'on peut aussi demander la poursuite des traitements.
Tout à fait. Camille Desforges, alors, vous les avez écrites avant de parler de vos patients ?
Je les ai écrites, oui.
Oui. Et pourquoi ?
Je les ai écrites et elles font 3 pages. Parce que c'est pas, je vais essayer de m'en expliquer, mais oui. C'est pas un formulaire avec des cases à cocher que j'ai choisi d'écrire, mais plutôt une réflexion sur ce que je pense de la vie, ce que je pense de la mort, ce que je pense de la souffrance, etc. En me disant que si enfin moi en tant que médecin, parce que c'est surtout en tant que médecin ce soir que je vais parler, ça serait peut-être plus informatif pour moi que d'avoir ce genre d'éléments que des cases cochées sur tel et tel traitement dans telle et telle circonstance. Voilà. Alors comment, pourquoi est-ce que j'explique ça? Parce que alors moi j'interviens en tant que médecin de soins palliatifs, jeune médecin de soins palliatifs. Je crois que c'est pas vous faire offense que d'imaginer que je suis le plus jeune d'entre nous. Mais je le précise parce qu'en fait j'ai grandi avec. En 2002, j'étais en première année de médecine. Confirmer que je suis le plus jeune. Je parle de 2002 parce qu'il y a une loi. Il y a une loi qui s'appelle la loi du 4 mars 2002 et j'ai été élevé avec cette loi parce qu'en première année de médecine, il faut connaître tous les articles de loi si on veut réussir au concours de fin d'année. Et donc j'avais appris cette notion de la décision médicale partagée. C'était le terme consacré à l'époque. Et puis ça me plaisait bien, et puis voilà, le concept d'autonomie a évolué avec les années, et puis je me suis retrouvé interne en médecine, 6 ou 7 ans plus tard, et en stage de soins palliatifs. Et là, donc premier témoignage, j'ai rencontré un patient d'une cinquantaine d'années, qui avait un cancer métastasé au poumon, et puis qui venait avec une gêne respiratoire, et c'est dans ce contexte-là qu'on l'accueillait à l'unité de soins palliatifs. Et du fait de sa gêne respiratoire, on savait qu'il était menacé par une complication qui est la détresse respiratoire asphyxique et qui pouvait terminer sa vie d'une telle complication qui est évidemment, tout le monde peut l'imaginer, très angoissante, très éprouvante. Et dans ce cas-là, ce qu'on fait, et si possible en urgence, c'est que le moment venu, on endort le patient, on appelle ça une sédation. Et cette sédation, on essaye de l'anticiper pour que si à 2h du matin ça survient, l'infirmière puisse en toute urgence endormir le patient pour lui éviter une fin de vie difficile. Et donc en interne...
Moi, et là en prévenant le patient.
Ah oui, bien sûr. Alors justement, c'est là où j'y arrive. C'est qu'en interne consciencieux, conscient qu'il fallait absolument associer le malade et puis l'informer de tout ça, je vais me présenter dans sa chambre et voilà, bonjour, je suis l'interne du service... je viens m'assurer que vous savez que vous avez une maladie très très grave, une maladie avec des métastases pulmonaires qui sont très très graves également, et puis une fin de vie, comme vous pouvez l'imaginer, je force un peu le trait, hein, évidemment, j'étais pas très mature, mais j'avais un brin de psychologie quand même. Mais voilà, je venais m'assurer qu'il avait bien compris la gravité de la situation et le risque de détresse respiratoire asphyxique, et donc la nécessité de prescrire de manière anticipée une sédation. Voilà, et en parlant avec ce malade, je me suis rendu compte sur son visage que j'avais fait la boulette, c'est-à-dire qu'il n'était pas du tout en mesure d'entendre ce genre de récit terrifiant sur ce qui allait arriver dans quelques jours ou dans quelques semaines. Donc, on ne pourra jamais me reprocher mon manque de transparence, par contre, je me suis reproché mon manque de psychologie, c'est-à-dire, alors si je le raconte, c'est parce qu'en fait j'avais pas réussi à percevoir chez ce patient qu'il avait tout un tas de mécanismes de défense pour survivre psychologiquement à cette maladie et à cet avenir qui se présageait très sombre. Et donc c'est le premier point que je voulais dont je voulais témoigner ce soir. Je crois que les directives anticipées ne doivent pas se concevoir comme un impératif médico-légal. C'est-à-dire qu'il y a certaines fois où ça peut générer plus de violence que d'apaisement, parce qu'il s'agit quand même de mettre le malade ou la personne en bonne santé face à l'hypothèse du pire et face à sa mort. Donc voilà, c'était ce premier point que je voulais aborder. Et puis un deuxième témoignage, un peu plus tard, quand j'avais un peu appris à mieux faire, une patiente que j'avais accompagnée dans la rédaction de ces directives anticipées et qui commençait comme ça, je refuse l'acharnement thérapeutique. Donc comme l'a souligné René Robert, c'est une phrase qui est inutile en cela que l'acharnement thérapeutique est interdit en France, et heureusement je crois. Mais voilà, elle commence ses directives anticipées comme ça. La plupart des directives anticipées qu'on voit passer se contentent de cette phrase, en fait, hein, qui est très peu informative. En même temps, c'est ce qui est utile finalement pour chacun de nous, c'est de savoir qu'est-ce qu'on entend par acharnement thérapeutique. Et cette dame, elle disait, j'entends par acharnement thérapeutique le fait de continuer les traitements qui m'aident à vivre, même si ma vie a perdu de sa qualité. Et là aussi, la qualité de vie peut être définie de façon très différente par les uns et les autres. Et cette dame, elle définissait la qualité de vie comme le fait de pouvoir rester autonome dans ses activités de la vie quotidienne. Et notamment, elle citait l'exemple de la toilette. C'était important pour elle que la toilette, elle puisse la faire seule. Cette dame est arrivée dans l'unité de soins palliatifs peu après, en relative bonne capacité. Et puis, dans sa maladie, elle s'est dégradée progressivement. On a dû l'accompagner à faire sa toilette au lavabo et puis ensuite au lit, un alitement complet. Et puis ensuite, il a fallu lui proposer le bassin et on a été obligé de lui poser une sonde vésicale. Et pas à un seul moment, elle a sorti ses directives anticipées en disant « mais ça, j'en voulais pas ». C'est-à-dire que quand on discutait avec elle, il y avait manifestement un décalage très important entre ce qu'elle avait imaginé qu'elle supporterait et ce qu'elle supporterait, est-ce qu'elle supportait effectivement. Et ça, je crois que c'est aussi important de le souligner. Plus le patient, ça on le voit tous les jours dans ce genre de service, je crois, mais plus le patient arrive près de l'échéance de sa mort et plus ses volontés sont changeantes, plus son jugement est labile. Et puis tout ça, ça va varier au gré de l'accompagnement, de l'attention que les soignants vont apporter aux patients, etc. Donc c'est mon deuxième point. Il y a parfois un décalage entre ce qu'on projette et ce qu'on vit dans l'instant présent. Maintenant que j'ai dit ça, je continue évidemment à recueillir les directives anticipées des patients. C'est une activité très importante et une attention qu'on a déjà depuis longtemps dans les services de soins palliatifs. Et je pense que c'est important pour trois raisons de le faire, malgré ces limites là que j'évoque. Premièrement, ça permet pour des patients qui sont dans la méfiance vis-à-vis de la capacité que vont avoir les médecins ou la médecine de respecter leur volonté, ça permet effectivement de rassurer ces patients. Et c'est pas rien. Deuxièmement, pour certains patients, contrairement au premier cas que j'ai décrit, il y a certains patients que ça va apaiser, qui sont anxieux par rapport à leur fin de vie, et ça va les apaiser de savoir voilà ce qu'on ferait dans telle et telle circonstance si ces circonstances venaient à arriver. Et puis enfin, et je crois que c'est vraiment ça qui est important dans la démarche d'écrire ou de rédiger les directives anticipées, c'est que ça permet de parler de la fin de vie, de la mort, c'est-à-dire de choses graves, à une époque, je crois, où on n'ose plus trop parler de la mort, où la mort ne fait plus partie forcément de nos maisons, pour la plupart en tout cas, puisque la mort, c'est quand même essentiellement à l'hôpital ou dans les maisons de retraite, mais surtout à l'hôpital. Voilà. Et nous, ce qu'on constate en accompagnant les familles, pardon, c'est que la mort est souvent vue comme quelque chose d'instantané, c'est-à-dire comme ce qu'on voit dans les films. Dans les films, la mort, elle est soit romantique, héroïque, voilà, ça, un dernier soupir dans lequel on va murmurer un truc hyper fort, hyper émouvant qui va faire pleurer le téléspectateur, ou alors c'est la mort brutale, voilà, en quelques secondes. Mais on oublie que la mort, c'est quelque chose qui est précédé souvent par une phase qu'on appelle la phase agonique, qui est naturelle, qui est physiologique, voilà, et qui est non douloureuse pourvu qu'elle soit bien accompagnée et qui peut durer quelques heures, quelques jours avant le décès. Donc je crois que c'est un des atouts majeurs de ces directives anticipées, c'est de permettre dans le binôme médecin-malade d'aborder les questions de la fin de vie, de la mort, les questions du sens de la vie, des questions profondes, quoi, hein, voilà. Et je voulais terminer par un dernier exemple qui n'est pas de ma pratique, mais dont tout le monde a entendu parler. C'est l'affaire Vincent Lambert. Parce que une des questions. Alors, Vincent Lambert, c'est ce jeune tétraplégique qui n'a pas rédigé ses directives anticipées. En état végétatif chronique, pardon. Et qui n'a pas rédigé ses directives anticipées. Et une des questions qu'on se pose, c'est et s'il avait rédigé ses directives anticipées ? Est-ce que ça aurait changé quelque chose ? Alors, Moi, je me pose la question du point de vue du médecin, c'est-à-dire, voilà, et je suis pas sûr d'avoir la réponse. Mais je pense que si c'était des directives anticipées sous la forme d'une case à cocher ou d'équivalent, c'est-à-dire je veux tel et tel traitement dans telle et telle circonstance ou je refuse tel et tel traitement dans telle autre circonstance, je ne suis pas sûr que ça aurait changé quelque chose parce que on n'aurait pas empêché dans ce cas-là le conflit familial et donc l'imbroglio médico-judiciaire derrière. En revanche, si j'avais eu des directives anticipées de Vincent Lambert, j'espère qu'il me pardonnera, voilà, mais parce que je crois que c'est vraiment important, c'est un cas dont on entend quand même très souvent parler, surtout dans ce contexte-là. S'il avait écrit « Je ne partage pas les convictions religieuses de mes parents, je suis un athée convaincu et pour moi le sens de la vie, ma vie n'a de sens que si elle est faite de relations, que si elle est pétrie de relations. Voilà. » Si j'avais eu des choses comme ça, c'est-à-dire j'aurais eu le sentiment en tant que médecin de pouvoir vraiment le comprendre, le connaître et donc respecter sa volonté profonde. Et je crois que ça changerait les choses. Donc moi, si j'ai un message à faire passer en tant que médecin qui voit passer des directives anticipées et qui suis amené à prendre des décisions toujours dans le respect de la volonté des patients, là aussi, je voudrais juste... alors peut-être que ça n'engage que moi, mais je ne crois pas. C'est peut-être parce que je suis jeune et naïf et que je n'ai pas connu le temps du paternalisme médical. Mais quand je discute avec mes collègues médecins, j'ai quand même le sentiment que dans la grande majorité des cas, les médecins veulent respecter leurs patients, veulent respecter les volontés profondes de leurs patients. Je veux vraiment insister là-dessus. Alors, voilà, peut-être que j'ai un point de vue biaisé, hein, mais j'ai perdu le fil de ma pensée. Mais ce que je voulais dire en conclusion, c'est que je crois qu'il est extrêmement utile dans le recueil de ces directives anticipées, dans la rédaction de ces directives anticipées, d'aller beaucoup plus loin que la présentation technique de tel et tel traitement dans telle situation. Parce que déjà, il faut une certaine compétence médicale. Voilà pourquoi le duo médecin-malade ne peut pas être dissocié. Mais surtout, le plus utile, c'est d'avoir la pensée du patient sur ses convictions profondes, ses convictions... vous m'avez compris, le sens de la vie, le sens de la souffrance... qu'est-ce qui fait que ma vie vaut le coup d'être vécue? Qu'est-ce qui fait que mon humanité est une humanité, etc., etc. Ça peut être au programme de votre prochain déjeuner de famille. Après les élections, parce que sans doute que les déjeuners de famille actuellement sont pollués par les débats politiques. Je vous remercie.
Merci beaucoup. On va vous donner la parole, sauf si vous voulez ajouter quelque chose. Juste deux petites remarques. Vincent Lambert a exprimé très fortement sa volonté à plusieurs reprises avec sa femme. Donc, et que le Conseil d'État a été extrêmement clair. Et qu'il a dit que son autonomie était pleinement respectée si on allait... Voilà.
Oui, tout à fait.
C'était juste. Et là, la petite interrogation, mais qui va peut-être rebondir avec vos témoignages ou vos interventions, c'est que votre intervention est très intéressante, mais en même temps, on sent que pour vous, les directives anticipées, ça doit être le mélange malade-médecin. Or, dans la loi, c'est la personne qui parle, peu importe. C'est un côté. Ouais. Voilà, donc.
Est-ce que je peux répondre court. Hein. Sur le premier propos, je suis d'accord avec vous pour ce qu'a dit le Conseil d'État, etc. Simplement, je crois qu'en tant que médecin, c'est très difficile de prendre une décision aussi lourde sans avoir l'adhésion de la famille. Et alors, face à une famille aussi déchirée que celle de la famille de Vincent Lambert, c'est très compliqué. C'est pour ça que je disais que si on avait des éléments beaucoup plus profonds, beaucoup plus robuste, ce serait sans doute plus facile. Et sur la deuxième chose que vous avez dite, oui, le binôme médecin-malade, c'est tout simplement, le temps que le micro circule, je vais simplement développer en 30 secondes, ceux qui, dans la salle, sont parents ou grands-parents d'adolescents comprendront sans doute ce que je veux dire, même si je n'ai pas d'adolescent. Un adolescent qui nous dit « moi, je suis autonome ou je veux être autonome », ses parents pourraient lui répondre « tu seras autonome quand tu sauras tenir tes comptes ou quand tu auras le permis de conduire », c'est-à-dire quand tu auras acquis des compétences pour être autonome. Et je crois qu'il y a ce paradoxe en matière de santé, c'est que l'autonomie du malade est forcément dissociée de la notion de la compétence qui est au monopole du médecin. Alors, évidemment, il y a Google et Wikipédia, mais la science médicale n'est quand même pas infuse. Et c'est rare, les malades qui ont fait 10 ans d'études. Quoique, tous les médecins sont des malades potentiels. Mais voilà, donc je crois que l'autonomie-compétence, ça ne peut pas se dissocier. Et donc, le binôme médecin-malade ne peut pas se dissocier.
Voilà. Alors, on vous écoute. Voilà, si vous voulez vous présenter, vous vous présentez. Si vous préférez rester... Voilà, madame.
Madame Roux, je suis de Poitevine... De souche. Bon, j'ai eu des cas dans ma famille, je pense comme tout le monde. Hein. J'ai perdu un papa d'un cancer du poumon. Et là, je viens de perdre une amie, une amie très chère, qui avait... je ne sais pas exactement ce qu'elle a eu comme maladie, mais enfin, elle a traîné plus de 5 ans. C'était l'hôpital, la polyclinique, l'hôpital, la polyclinique... Ensuite, chez elle, avec les soins de jour, de nuit, pour finir dans un état lamentable. Alors là, oui, on peut parler du coup, parce que, je vous dis, ça a duré plus de 5 ans, hein, plus que de 5 ans. Et puis, monsieur le professeur, vous m'avez beaucoup éclairé, parce que je suis pour ces directives anticipées. Et j'ai réuni ma famille, mes enfants d'abord. Je leur ai fait part de mes souhaits. J'en ai parlé à mon docteur. J'ai un frère qui s'est suicidé à Paris. Je ne veux pas le juger. Mais vous savez que c'est dans les plus de 70 ans qu'il y a un pourcentage énorme de suicides. Et je voudrais dire à madame qu'elle n'a pas dû visiter beaucoup d'EHPAD au dernier étage pour voir... Oui, madame. Pour voir l'état de ces gens qui sont véritablement que des légumes. Et s'ils avaient fait leur directive anticipée, je ne sais pas où ils seraient maintenant. Mais je pense, monsieur le professeur, je suis entièrement d'accord avec vous. Et vous voyez, j'ai même commencé à me défaire de certaines choses en pensant justement à ma fin de vie. Et je ne veux pas justement... je vais vous dire, je suis pour le suicide. Hein. Si vraiment je savais que j'avais une maladie incurable, je crois que je ferais moi-même ce qu'il faut.
Merci. Et vous avez écrit des directives anticipées ?
Bien sûr, monsieur. À mon docteur. Ah.
Merci. Donc je suis Brigitte Grèce, infirmière libérale à Poitiers. Voilà, j'espère qu'il y a d'autres infirmières ici. Voilà. Je m'occupe aussi de l'Observatoire francophone de la médecine de la personne qui a été créé à Poitiers. Donc je voudrais, moi je me pose plein de questions. Et l'accompagnement donc de la fin de vie à domicile, on l'a. Plein les bras. Et je voudrais noter toute la complexité de ce chemin de vie vers cette situation où comment on vit quand on sait qu'on va mourir. C'est une question qui est posée tous les jours, qui est remise en cause tous les jours. C'est une complexité qui se fait de minute en minute et qui est toujours remise en cause. Donc les directives anticipées, donc moi j'en ai vu, j'ai aidé des gens aussi à les rédiger parce qu'ils ne savent pas toujours. Les questionnaires à cocher, bon moi je les mets autrement, j'essaie de faire des phrases. Et cette difficulté à parler, à écrire, à élaborer aussi un projet qui est en fait sa fin de vie, c'est aussi une résurgence de la vie à nouveau. Donc on voit ces gens qui vont mourir, dans des difficultés des fois difficiles, mais qui effectivement s'accrochent, comme vous dites, à l'acharnement thérapeutique. Ils y croient. Donc on peut leur mettre tout ce qu'on veut, du perlimpinpin ou tout ce qu'on veut, mais ils y vont, ils abandonnent jamais, parce qu'ils vont continuer à vivre. Voilà. Donc pour moi c'est important, parce que aussi dans mon rôle d'infirmière, à domicile, je suis dans la pulsion de vie permanente, et dans la création de la relation. Ça, c'est ma façon de travailler, voilà, c'est comme ça, mais j'y tiens. Et en fait, dans cette pulsion de vie, on la partage. Après, il se passe plein de choses. jusqu'au choix définitif, mais le choix définitif est rare. Peut-être, comme dit madame, sauf peut-être chez les personnes très âgées. Voilà. Mais c'est, là aussi, ce n'est pas simple. C'est une autre génération, et c'est une autre génération qui n'a pas appris aussi à élaborer certaines choses de la même façon qu'actuellement dans notre vie moderne. Voilà. Donc je voulais juste dire que c'est dommage que vous n'ayez pas fait parler dans votre équipe des soignants, des soignants de tous les jours à domicile, parce qu'il y a une autre vision aussi des choses. On a l'autre décor de l'institution. Et que la fin de vie, le rapport à la mort, le rapport à la santé, le rapport au choix de vie continue jusqu'à la fin. Voilà, et je le vois chez plein de gens. Aujourd'hui, j'ai vu 5 personnes en fin de vie. Voilà. Je suis fatiguée ce soir. Mais ces gens-là, ce que j'ai vu, mais c'est incroyable. C'est de la vie incroyable. Et je me dis que tout est possible à chaque instant. Et que quelles que soient les directives anticipées, quelles que soient les phrases dites, les paroles dites, parce que là aussi on peut travailler et réfléchir sur la parole qui est partagée à ce moment-là, c'est jamais réellement ce qui va se passer et ce qui est désiré, parce que le désir est toujours là. Voilà. Je voulais juste dire ça.
Merci. Merci beaucoup. Je vais juste très brièvement quelques commentaires. Alors, on n'a pas pu avoir tous les représentants des personnes qui sont concernées par les différentes facettes de la fin de vie, et on a voulu, malgré nos connaissances, retirer au maximum nos casquettes et parler plus en tant qu'individu qu'en tant que professionnel, sauf peut-être Camille qui, lui, justement, avait le rôle de... je vais vous raconter ce que mes malades à moi me disent, mais on est bien conscient que ça n'est qu'une petite facette, et on est bien content de votre témoignage, et j'imagine qu'il va y en avoir d'autres sur la façon dont c'est vécu sur le terrain. Ce que je peux rajouter, c'est en étant un peu optimiste sur les dimensions que vous soulevez, c'est d'abord on en parle, et ça c'est déjà un progrès parce que ça n'existait pas il y a quelques années, et deuxièmement il y a une préoccupation de nos tutelles sur l'exploration de la fin de vie dans toutes ses facettes, hein, et dans ce fameux plan de fin de vie auquel faisait allusion Véronique Fournier, je peux vous assurer qu'il y a les représentants d'absolument toutes les personnes concernées, des infirmières libérales, aux gens qui travaillent dans les EHPAD, aux associations de patients. Donc, c'est en train de progresser beaucoup pour être vraiment à l'écoute de ce qui se passe réellement dans le vie de tous les jours.
Bonjour. Jacqueline Salençon, je m'occupe de l'association À vivre sa fin de vie. Et je travaille sur les directives anticipées depuis une dizaine d'années. Je voudrais relever certaines choses qui me choquent et qui m'ont rechoquée dans ce que j'ai entendu. Vous avez parfaitement raison, madame, quelqu'un qui est malade et qui va mourir, il est d'abord dans la vie. Et moi, je suis très choquée par le titre de la loi qui s'appelle le droit des malades et de la fin de vie, alors que ça devrait s'appeler les droits des citoyens dans le système de santé. Parce que nous allons tous mourir, qu'on le sache ou pas, et on ne sait pas quand. Vous avez un cancer, vous savez que le cancer risque de vous tuer dans 1 an, 10 ans, 20 ans, peut-être. Et vous avez bien le temps d'avoir un accident de voiture, vous avez bien le temps d'avoir une autre maladie qui peut-être va mettre fin à votre vie, indépendamment de ces longues maladies chroniques. Donc nous sommes tous en fin de vie, dès lors que nous sommes nés, puisque la mort est au bout. La mort nous est donnée avec la naissance. Alors c'est vrai que j'aimerais bien que la loi soit changée au niveau du titre et ne parle que des rapports des citoyens avec le système de santé. Vous avez parlé aussi beaucoup, de dire « j'ai vu les gens qui disent ». Mais lorsque vous dites, ça veut dire que vous êtes encore capable de parler. Or, les directives anticipées, c'est bien un dispositif qui est destiné à donner vos idées. Je rejoins, c'est vraiment, je pense, votre philosophie de vie qui est importante. Et c'est pour donner vos idées le jour où vous ne pouvez plus communiquer et où ceci est acté de façon irréversible. Donc évidemment, tant que vous pouvez parler, vous avez pu écrire votre philosophie de vie, votre éthique de vie, vos croyances par rapport à la vie et à la mort, par rapport aussi au système médical. Comme vous avez dit, certains croient toujours au miracle, d'autres non, mais bon, c'est très personnel. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est vraiment présenter sa propre éthique de vie, ses propres croyances. Et effectivement, pas cocher, je voudrais avoir tel appareil ou tel autre. Mais il ne faut pas oublier que les directives sont faites pour le moment où vous ne pourrez plus communiquer. Donc ce n'est pas... tant que vous pouvez communiquer, vous l'avez dit, la parole est bien sûr prioritaire sur tout ce que vous avez écrit. Et ça peut être contradictoire. Vous êtes bien sûr libre de changer d'avis et on ne peut pas toujours tout anticiper. Donc on peut effectivement se dire... je suis en bonne santé, je pense que ça, je ne supporterai pas. Et puis, quand on y est, on le supporte bien. Donc ça, c'est des points qui m'ont paru très importants. Et si vous voulez, j'ai aidé des personnes qui sont âgées, qui sont malades depuis plus ou moins longtemps, et qui ont écrit. Donc, vous pouvez me dire, vous médecins, ce que vous en pensez. Donc, une dame qui a 64 ans, qui est aveugle depuis 5 ans, qui a un cancer généralisé, 4 tumeurs, dont une au cerveau. Elle a refusé la chimio et la radiothérapie. Elle est soignée par immunothérapie, ce qui est donc des nouveaux dispositifs qu'elle accepte totalement. Elle a un pacemaker depuis 5 ou 6 ans, donc elle a aussi des problèmes cardiaques. Et donc elle a écrit, compte tenu de mon état de santé actuel et de mon éthique personnelle, j'admets sans problème l'idée de ma mort dans un avenir sans doute assez proche. Je souhaite rester seule au moment de ma mort. Certains veulent être accompagnés. C'est important aussi de dire que vous voulez être accompagné ou que vous préférez être seule. Et si vous voulez que quelqu'un vous donne la main au dernier moment, il est peut-être important de dire quelle personne vous souhaitez auprès de vous et quelle personne vous refusez de voir. Je pense qu'effectivement, à Vincent Lambert, s'il avait écrit qu'il refusait que ses parents aillent le voir à l'hôpital et s'occupent de quoi que ce soit, ça aurait été plus clair. Mais bon, ça n'a pas été fait, c'est ainsi. Mais c'est vrai que ça peut faire penser que nous, personnellement, vous avez le droit, quand vous êtes à l'hôpital, de refuser certaines visites. Vous avez le droit d'en demander. Donc, ça fait partie de l'accompagnement au moment de votre fin de vie. Voulez-vous avoir quelqu'un et qui avec vous, ou bien préférez-vous être seul? Je refuse, donc cette dame écrit, je refuse toute assistance religieuse. Elle refuse d'endurer une souffrance morale et ou physique avant ma mort. Donc elle écrit pour le médecin, je ne veux pas renouveler mon pacemaker, sachant que ça va accélérer sa fin de vie. Je refuse qu'on me laisse souffrir. Si je deviens grabataire, si l'évolution de mon état de santé entraîne un déficit moteur, sensoriel ou une démence, puisqu'elle a une tumeur au cerveau, je demande qu'on cesse tout traitement et soin autre que le soulagement de mes souffrances et que l'on me mette sous sédation active et continue, comme la loi le permet. Et donc, elle précise, aucune, ce que j'appelle machine à vivre, c'est-à-dire pas être branchée à des appareils qui vont prolonger la vie. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me paraît raisonnable.
J'ajoute, je ne sais pas, voilà, qu'il y a une autre salle à côté, qui, je crois, est aussi pleine, et que s'il y a quelqu'un qui veut intervenir, je crois qu'on entend.
Un petit mot sur Vincent Lambert, juste quand même.
Oui.
Je pense qu'il faut faire très attention de ne pas. Parler de la situation de Vincent Lambert sans la connaître précisément, et même si il y a eu plein de choses qui ont été dites sur Vincent Lambert dans les médias, on ne connaît pas forcément la réalité vraiment de ce qui s'est passé. D'autre part, je doute que quelqu'un puisse écrire dans ses directives anticipées, je ne veux surtout pas que mes parents soient là le jour de ma mort. Et peut-être, madame, mais en tout cas, je peux vous dire que ce n'était pas le cas de Vincent Lambert. Et, voilà. Et que le conflit, il est arrivé bien après, il est arrivé à son chevet. Et il n'était pas constitué avant cet accident. Donc, attention. Et je ne suis pas persuadée que on est forcément envie d'aller aussi précisément dans le détail, sauf si on a vraiment effectivement une bonne raison de le faire avant. Mais voilà, en l'état, je voudrais vraiment dire cela, dire aussi que le médecin, pour répondre à mon confrère, qui avait en charge Vincent Lambert, était intimement convaincu que ce que aurait souhaité ce patient-là, c'était qu'on arrête les soins. Et donc, ce n'est pas ça qui l'a arrêté. Hein. Et ce qui a arrêté, c'est effectivement le conflit familial. Et je pense que dans n'importe quelle circonstance, c'est extrêmement difficile de passer outre un conflit familial aussi constitué. Mais je ne crois pas qu'il faille faire dire des choses très définitives à des directives anticipées. Je pense que même s'il avait écrit des directives anticipées, probablement le conflit familial aurait fait que ça n'aurait pas pu s'appliquer.
Bonjour, je suis actuellement en PACES. Donc, j'ai une question qui me chagrine. C'est que le médecin, il doit en premier lieu soigner, mais ce n'est pas peut-être notre obstination à vivre, notre peur de la mort qui ferait qu'on confonde notre volonté de vivre et ce qui est vraiment les directives anticipées. Parce que c'est quelque chose, en fait, que j'ai un problème à comprendre.
Alors, vous me regardez, donc j'imagine que cette question m'est destinée. Mais je n'ai pas bien compris la question, oui. Je suis désolée.
Est-ce que vous...
On est dans une société en fait, qui essaye de cacher de plus en plus la mort, et notamment la socialisation de la mort est de plus en plus cachée. Donc je me demande si notre volonté de vivre à tout prix ne serait pas aussi un penchant pour éviter d'écrire les directives anticipées.
C'est-à-dire que ce que vous dites, c'est que notre volonté de vivre nous pousse à ne pas écrire des directives, nous pousserait à nous... Peut-être. Mais comme le disait Véronique, l'intérêt quand même des directives anticipées, c'est qu'on peut ne pas les écrire. Et c'est aussi de ne pas leur faire dire des choses qu'ils n'ont pas dites. Quoi. C'est quand même ça, je trouve, un des aspects les plus positifs de cette loi. C'est que, voilà, ça donne la parole, mais si les gens veulent se taire, si les gens veulent dire des choses et pas d'autres, voilà. Et que c'est quand même un des gros... Peut-être, alors qu'il y a des gens que je réponds, alors que je ne suis pas du tout compétent pour répondre, peut-être que l'envie de vivre, c'est manifeste que de nombreuses études qu'on fait... ont été faites montrer que, en particulier l'une, c'est la directive anticipée dans les maisons de retraite, dans les EHPAD, montrait que ce que voulaient les gens, c'était pas écrire des directives anticipées, c'était de vivre. C'était massif. Mais qu'il n'empêche qu'il y avait quand même un noyau dur, 10% toujours de gens qui voulaient contrôler ce qui allait se passer. Voilà. Mais que ça, c'est manifeste, les gens ont envie de vivre. Madame ?
C'est plutôt une bonne nouvelle.
Ouais. C'est clair. Moi, j'aimerais juste une précision sur le conflit familial dont vous parliez, madame aussi. Qui est prioritaire ? Enfin, qui est à la... Comment dire ? Vers qui, quand on a un époux qui, effectivement, a eu un accident, est-ce que l'épouse qu'on peut être et n'a pas la main, enfin, la main entre guillemets, sur la volonté de son époux, et que les parents, qu'est-ce que, je ne comprends pas très bien, là, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que la loi dit quelque chose, ou pas ?
Non, la loi ne dit rien là-dessus.
D'accord.
Aux États-Unis, par exemple, la loi, ou pas la loi, parce que ce n'est pas tellement du domaine de la loi aux États-Unis, mais la jurisprudence précise l'ordre du mandataire, les ordres voilà, du mandataire, non, mais... et les époux passent avant les parents.
D'accord.
Mais... malgré cela, il y a eu des histoires qui ont défrayé la chronique aux États-Unis où il y avait des conflits entre un époux et les parents. De Terry Schiavo, par exemple, c'était le cas. Et donc, on sait bien que partout au monde, lorsqu'il y a un conflit entre des parents et un époux ou une épouse, voilà, c'est
inextricable. Oui, d'accord. Okay.
Hein? Donc voilà. Donc, et je ne crois pas que la loi puisse résoudre les questions. Il ne faut pas attendre de la loi que voilà. Regardez dans l'histoire Vincent Lambert. Toutes les autorités judiciaires ont dit ce qu'il fallait faire et on dit on pense que toutes les cases de la loi ont été cochées, que toute la procédure a été bien faite, que les médecins n'ont pas été trop légers dans la décision à prendre, qu'ils l'ont vraiment pesée, sous-pesée, ils ont réfléchi en plusieurs, en collégialité, etc. Toutes les instances juridiques l'ont dit, jusqu'aux plus hautes instances juridiques de l'État et même de l'Europe. Et malgré ça, c'est impossible de faire appliquer la décision qui a été prise parce que il y a un conflit familial. Donc, je crois vraiment qu'il faut retenir de ça que la loi ne pourra pas tout décider. Et voilà.
Sauf s'il y a des directives écrites, on est d'accord.
Non, je ne crois pas. Je crois même que pas. Même s'il y avait des directives écrites, les parents aujourd'hui, ils disent peut-être qu'il aurait changé d'avis. Et nous pensons qu'il aurait changé d'avis parce qu'on ne peut jamais se projeter dans une situation de handicap pareille. Et donc, nous pensons que nous l'avons élevé effectivement religieusement, que probablement il avait, nous ne contestons pas le fait qu'il n'avait plus de pratiques religieuses, etc. Mais au fond, peut-être que son éducation aurait ressurgi à ce moment-là, qu'il aurait cru et que ça n'aurait pas été ça qu'il aurait voulu. Et nous, en tout cas, nous avons envie de faire le pari de la vie. Et voilà, et tant que vous n'avez pas, avec les personnes les plus présentes et les plus proches, un accord et que c'est aussi conflictuel, c'est extrêmement difficile pour des médecins de prendre une décision contraire.
Mais donc pour éviter ce genre de situation, si on écrit ce que l'on souhaite, donc des directives anticipées, les médecins vont bien respecter ce que le patient aura écrit en dehors des questions de famille, c'est-à-dire de parents et d'épouse. Enfin, je veux dire, on doit bien, j'ose espérer.
Je crois que c'est vraiment le cas pour 99% d'accord. des situations. Okay. Mais okay. Voilà.
D'accord. Voilà.
Oui, je suis complètement d'accord avec ce que dit Véronique Fournier. De toute façon, effectivement, la loi n'empêchera jamais les cas très très particuliers de survenir, quel que soit d'ailleurs le contenu de la loi. Cependant, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était peut-être mal dit ou maladroit, mais c'est que je pense quand même qu'en faisant cette espèce d'introspection, de grande réflexion, on meurt qu'une fois et pour longtemps. Donc autant vraiment prendre le temps de descendre au fond du fond du fond de la question. Et je crois que si on livre sur un papier 2-3 pages, c'est pour ça que j'ai fait quelque chose d'un peu copieux, le fond du fond de sa personne, peut-être quand même que ça peut éviter les conflits familiaux. Je ne dis pas que là ça l'aurait évité, mais voilà, peut-être que ça peut éviter les conflits familiaux, puisque c'est quand même le fond du fond du fond de ma personne. Ce n'est pas que la petite superficie de tel traitement, avec ce que j'en ai compris maladroitement dans telles circonstances. C'est pour ça que...
Donc l'intérêt de ce que j'en comprends aujourd'hui, c'est de pouvoir l'écrire avec quelqu'un, enfin avec un médecin.
Non, pas forcément, parce que ce que vous dites, Camille, c'est qu'il ne va pas écrire des choses médicales.
Non,
il va écrire ce qui est important. Ou ce que dit René, il dit, moi j'écris le jour où je ne pourrai plus communiquer, plus avoir d'émotions, vous n'avez pas besoin d'écrire ça avec un médecin. Hein. Enfin, je veux dire, si vous avez envie d'en discuter avec un médecin, vous pouvez. Mais ça n'a pas de caractère médical. Ça a quelque chose qui a trait. Mais c'est une possibilité.
On va juste essayer l'autre salle parce qu'au bruit de... Voilà. Alors je ne sais pas comment ça se passe, si vous m'entendez. Eh bien oui, on vous entend. Alors vous avez... Ben, je vous en prie.
Questionnaire ou si justement c'est plutôt par les philosophies de vie, est-ce qu'il y a des précisions là-dessus?
Alors le gouvernement a souhaité proposer un modèle de directive anticipée et donc il a demandé au Conseil d'État notamment de réfléchir à cela et le Conseil d'État a sollicité la Haute Autorité de Santé. Donc il y a un modèle officiel aujourd'hui d'à peu près une dizaine de pages, qui est disponible et qu'on vous a du reste théoriquement distribué dans vos pochettes. Mais vous n'êtes absolument pas obligé de remplir ce modèle-là. Il n'est pas obligatoire. C'est juste un modèle pour réfléchir. Et vous pouvez très bien écrire ce que vous voulez sur papier libre. Et vous pouvez aussi, dans ce modèle, n'écrire que les quelques lignes qui vous sont destinées pour papier libre et ne pas remplir les cases. Donc, voilà la réponse. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ce qui est de prendre le modèle qui est proposé par le législateur et par la réglementation. Vous pouvez tout à fait faire autrement.
Je rajoute juste que ce qui est intéressant dans les documents, c'est justement l'explication de texte. Et c'est ça qui compte quand vous lisez le document. C'est pas tellement le format sur lequel vous rédigez ou pas vos directives anticipées. Mais c'est justement, c'est finalement ce dont on parle ce soir, c'est la philosophie avec laquelle on veut ou on ne veut pas les rédiger.
Je me permets juste de rajouter quelque chose à ce sujet. Il y a effectivement ce formulaire. Il y a cependant sur le site de l'HAS, alors vous allez peut-être pouvoir m'éclairer, Madame Fournier, mais sur le site de l'HAS, il y a un autre formulaire qui est produit par le groupe de travail de l'HAS, qui le justifie avec là aussi une dizaine de pages de réflexion et qui me semble aller beaucoup plus justement dans le sens d'une réflexion large qui comprend ses propres croyances, ce qu'on pense de la vie, de la mort, etc. et qui ne se contente pas de ce formulaire-là qui est proposé, estampillé par le ministère de la Santé sur les traitements en fin de vie. Et j'ai été surpris de voir, alors sur le site de l'HS, quand on y va, directive anticipée HS, on trouve ce formulaire-là et un autre formulaire estampillé HAS qui va plus loin, qui est beaucoup plus fouillé.
Oui, tout à fait, mais personne n'est interdit d'aller sur le site de la HAS. Et du reste, il y a d'autres modèles de directives anticipées qui existent. Je vous signale l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, par exemple, propose aussi un modèle de directive anticipée. Donc il y a des tas de modèles qui existent. Voilà, la HAS a travaillé, le ministère de la Santé s'est saisi de ce qui avait été fait par la HAS sans prendre la totalité, parce qu'ils ont estimé que c'était trop. Et d'autre part, si vous avez bien regardé, il y a deux effectivement modèles un peu différents sur la HAS. Il y a en fonction de si vous avez une maladie grave ou pas une maladie grave.
On va prendre encore une question dans l'autre salle, je crois qu'il y en a une, et après je reviens ici.
Oui, bonjour. Un peu touchante, mais pas si fausse que ça, qui m'a dit « Mon petit, tu sais, depuis ta naissance, chaque seconde qui passe, c'est un pas vers la mort. » Bon, je me suis dit que c'était pas forcément réjouissant, mais j'ai trouvé ça quand même relativement assez juste, parce qu'au final, bon, on va finir par tous y aller, normalement. Donc voilà, c'était juste pour introduire un peu sur une autre idée. D'autre part, je me posais plusieurs questions. Enfin, moi, pour avoir rédigé mes directives anticipées, donc après la PACES, on nous l'a plus ou moins enseigné. C'est quand même quelque chose qui est. J'ai trouvé que c'est un exercice.
La PACES, c'est la première année de médecine, c'est ça ?
Voilà, la première année commune.
Aux études de santé.
Voilà, donc qui regroupe les médecins, les pharmaciens, les sages-femmes, les dentaires, les kinés aussi. Et donc, oui, j'ai trouvé que c'est un exercice extrêmement difficile, surtout quand on a 19 ans. Parce que se projeter sur la fin de sa vie, normalement on l'envisage pas trop proche. C'est extrêmement difficile. Il m'a fallu une semaine pour les rédiger. Elles font 3 pages et je les ai malheureusement perdues.
C'est plutôt bon signe.
C'est dommage parce que du coup, il va falloir qu'il y ait de passe.
Non, on va vous rassurer, vous n'êtes pas du tout obligé d'obéir à vos professeurs de première année de je ne sais trop quoi.
Non,
hein.
C'est parce que j'ai trouvé ça extrêmement intéressant de le faire.
Oui, mais alors voilà, le mot intéressant est troublant parce que c'est pas fait pour être intéressant, les directives anticipées.
Oui, mais ça le
c'est fait pour être personnel.
C'est personnel, mais non, mais j'ai trouvé ça intéressant du point de vue où. Ah,
mais c'est pas un exercice non plus, quoi, j'ai cru comprendre.
Non, mais du point de vue personnel, je trouve ça enrichissant.
Et alors,
ça se fait se poser des questions qu'on se poserait pas d'habitude.
Tout à fait.
Personne se dit à 19 ans, tiens, si demain j'ai un accident de voiture, qu'est-ce que je veux ? C'est pas une question qu'on se pose comme ça le matin en se réveillant. Peut-être le soir en s'endormant, j'ai tendance à me poser des questions un peu franches le soir. Mais voilà. Donc c'était juste. Voilà, j'ai trouvé que c'était un exercice assez difficile.
D'accord.
Et je peux comprendre du coup que ce soit pas évident pour tout un chacun de les rédiger. Parce qu'y penser comme ça, au passage, voilà, on a tous plus. Enfin, on l'envisage peut-être. Mais le faire, l'acter, l'écrire, c'est un exercice extrêmement difficile parce que moi-même, après les avoir rédigés, je sais que au-delà de ces 3 pages, même si j'ai pas décrit les situations précises, j'ai essayé de rester assez général et de donner plus ce que je ressens, ce que je pense et ce que je veux et ne veux pas. Mais en restant assez général, j'ai trouvé que c'était quand même assez compliqué parce que je sais que y a plein de cas particuliers dans lesquels ça oui, mais ça non. C'est très compliqué. Et Une autre chose, enfin voilà, là c'est du coup sur quelque chose de plus personnel. Ma grand-mère est en fin de vie, ça fait maintenant 21 ans qu'elle a la maladie d'Alzheimer. Elle est en EHPAD depuis 10 ans. Et je me pose la question du sens de sa vie à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas se nourrir, elle ne peut pas faire sa toilette, elle n'a strictement aucune relation avec l'extérieur. Elle est dans un état c'est très très étrange parce qu'elle a des réactions, évidemment, mais c'est un état, je considère, presque végétatif. Je ne sais pas si au sens médical du terme, c'est le terme qui est consacré, mais elle est dans un état qui est assez étrange. Et moi, je sais pertinemment que c'est une femme qui était, entre guillemets, pleine de vie et qui aurait peut-être jamais voulu ça. Malgré ça, maintenant, elle ne peut pas s'alimenter seule, donc c'est les aides-soignants et les infirmiers qui l'alimentent, mais elle n'a strictement aucun traitement médical. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas d'hypertension, à part le fait qu'il faut la bouger pour éviter les escarres, il n'y a pas de... c'est la limitation des traitements. À part des traitements, à part le fait qu'ils la nourrissent et qu'ils la lavent, les traitements ils sont inexistants puisqu'elle n'a pas de traitement médical.
Ok, merci beaucoup. Dans le cas de votre grand-mère, on s'est dit que si elle avait écrit des directives anticipées, peut-être que les choses auraient été plus simples. Je crois que madame, vous voulez... On va passer à quelqu'un d'autre.
Non, c'est que j'aurais voulu avoir la réponse d'un des médecins ou de quelqu'un, savoir dans cette mesure où il n'y a pas de traitement médicamenteux ou quoi, qu'est-ce qu'on peut penser de cette fin de vie, de ce qu'on pourrait appeler l'arrêt des traitements, qu'est-ce que ça pourrait être?
Je suis d'accord, c'est un problème qui est non résolu et qui, jusqu'à maintenant, est insoluble, puisqu'il n'y a pas véritablement de traitement arrêté. Par contre, ça n'empêche pas la réflexion sur les directives anticipées, et moi, ça fait partie des choses qui sont importantes à exprimer.
Je suis médecin, je suis pédiatre, mais je ne vais pas parler en tant que médecin ni en tant que pédiatre, bien que j'y reste quand même. J'ai écrit mes directives anticipées, je n'ai pas rempli de cases, j'ai fait des grandes phrases. J'ai écrit plutôt court, mais quand même grandes phrases, parce que j'ai passé une période assez difficile. Je me suis retrouvée en réanimation, je me suis retrouvée en neurochir, dans le coma. Je suis bien, merci les médecins. Mais quand je me suis réveillée, et j'en ai parlé avec mes enfants, avec mon mari, eh bien, ils ne savaient pas. Ils me connaissent bien pourtant. Mes enfants sont des jeunes adultes, ce n'est pas des ados. Mon mari, ça fait longtemps quand même qu'il me connaît, je ne suis pas toute jeune. Eh bien, je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez. Eh bien, ils auraient été drôlement emmerdés. C'est vraiment le cas de le dire, parce qu'ils n'auraient pas su, parce qu'ils n'auraient pas pu. Et là, j'ai dit, moi, je vais les écrire pour eux, pas pour moi. Moi, à la limite, après, une fois que je communique plus, que je suis plus là, de toute façon, qu'est-ce que ça va faire? Mais les autres. Et puis, je me suis dit aussi, les médecins, chapeau, quelle décision ils vont prendre pour moi? Pour une fois, c'est moi qui vais la prendre. Donc, j'ai écrit mes directives anticipées pour ça.
Bonjour, je m'appelle Pierre-Adrien et depuis le début du débat, il y a des choses qui m'ont un peu frappé. Déjà, c'est qu'on est d'accord que les directives anticipées ne répondent pas à toutes les questions et qu'il y a des cas où on est devant une impasse. Il y a une deuxième chose, c'est qu'on est d'accord sur les grandes lignes, c'est-à-dire qu'on refuse la souffrance, on refuse l'obstination déraisonnable, on refuse d'être un poids pour notre famille. Malgré ça, on voit bien que le législateur ou les gens ont cette envie de prendre des décisions et de s'investir et ont peur, parce que quand on voit... Je suis également étudiant en deuxième année de médecine. Et quand je vois que des gens peuvent écrire sur leur directive anticipée qu'ils refusent l'obstination déraisonnable, ça me questionne sur ma profession future. Quelle vision ma profession renvoie envers les gens? Et en fait, ma question, c'est qu'aujourd'hui, je suis un bébé étudiant, je suis un bébé médecin, vraiment, je commence tout juste, et ça ne me viendrait pas à l'esprit de continuer des traitements, ça ne me viendrait pas à l'esprit de continuer la souffrance des gens. Et je me demande si le fait que mes études soient très médicalisées, très, très scientifiques, est-ce que finalement, plus je vais avancer dans mes études, et plus ce regard-là, je vais le perdre? Et donc finalement, ma vraie question, c'est est-ce que plutôt que des directives anticipées où on voit bien qu'elles ont des limites, une amélioration de la formation des médecins à ce genre de situation ne serait pas une alternative plus raisonnable. Je reviens par exemple à l'exemple de Mathieu. J'étais dans sa promo aussi, donc j'ai eu aussi le prof qui nous a demandé fortement de les écrire. Et je suis arrivé à faire le même dilemme, c'est-à-dire que je ne savais pas y répondre. Et j'ai dit, je laisserai le choix au médecin. Mais c'est vrai que finalement, tout ce qui va être parlé de l'éthique, de la personne humaine, des choses comme ça, on en voit en première année avec ce professeur. Certains d'entre nous ont la chance, en option, en deuxième, troisième année, de le continuer dans des masters. Mais après, c'est tout. Après, on va simplement parler de cas cliniques et de choses comme ça. Et je me demande si finalement, augmenter cette formation ne serait pas une alternative plus plausible, plus réaliste et plus... C'est pas certaine, mais avec moins de failles que vraiment les directives anticipées.
Merci.
En résumé, on avance. Je pense qu'on avance, on essaie d'avancer dans toutes les directions. Alors, il y a plein de failles, il y a plein de choses qui ne sont encore pas bien faites, à la fois dans l'exercice clinique, parce qu'on a tendance à donner une version un peu idéaliste de ce qu'on fait ou de ce qu'on pense être bien fait. Mais on est quand même conscient que les situations ne sont pas idéales partout et pour tout le monde, et il faut encore beaucoup travailler. Et donc, dans les points que je trouve vraiment positifs, c'est un, la volonté justement de communiquer, de discuter avec vous ce soir. Deux, quand j'entends la réflexion des étudiants qu'on a eue aujourd'hui, je trouve que c'est, moi qui suis enseignant, je suis assez fier de ça, parce que vous avez des réflexions qui sont intéressantes et qui montrent votre investissement et votre participation à cette réflexion. Après votre maturité, vous allez l'acquérir au fur et à mesure du temps, mais si vous avez déjà cette sensibilité, moi je me dis que c'est déjà quelque chose d'important de pris, et il faut continuer avec cet esprit. Après, dans ce fameux plan de fin de vie, il y a aussi tout un volet qui concerne l'enseignement, la volonté d'améliorer la diffusion des connaissances. Et pas que pour les étudiants en médecine, mais pour plein de catégories professionnelles, et que ceux qui sont déjà en exercice aient aussi accès à des systèmes de formation qui permettent de connaître mieux et qui permettent de se familiariser avec finalement ce qu'on est en train de découvrir ce soir, ou pas de découvrir, mais en tout cas, on met le doigt dessus, c'est réellement la fin de vie, parlons-en.
Nous avons une question, planétarium.
Eh bien, allez-y, avant que... attends... Bon, allez-y, excusez-moi.
Oui, bonsoir. Je travaille en psychiatrie, j'aimerais juste faire un petit pas de côté. Il y a beaucoup de propos légitimement sur la famille et l'altération de l'état de conscience à ce moment-là. Cette conscience altérée, elle existe aussi chez les malades psychiatriques, notamment schizophrènes. Il y a plusieurs réflexions qui sont menées actuellement dans des services de psychiatrie sur les directives anticipées à rédiger par ces patients-là. Au moment où ils vont bien, ce qu'ils souhaiteraient au moment où ils vont plus mal. Voilà, en termes de modalités d'admission, de soins, de contention, de traitement, etc. Et je voudrais savoir s'il y a des éléments dans la loi qui se rapportent à ces situations.
Merci, cette question, c'est une très belle question. Et non, la réponse, c'est aujourd'hui, les directives anticipées en France sont essentiellement réservées à la préparation de sa fin de vie. Et vous avez raison, il y a des tas de pays dans lesquels les directives anticipées sont utilisées en psychiatrie pour les patients, pour qu'ils puissent dire, après une crise, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient qu'on fasse au moment de la prochaine crise et quand ils ne seront plus en état de décider pour eux-mêmes, et qu'il faudra néanmoins savoir si on fait une hospitalisation sous contrainte, un électrochoc, une contention dans une chambre d'isolement, etc. Et nous pensons, particulièrement... dans l'équipe dans laquelle je travaille à l'hôpital Cochin, dans les travaux que nous avons menés, que ce dispositif des directives anticipées devrait s'élargir à ces patients psychiatriques, comme sur le modèle de ce qui se fait à l'étranger. Mais pour l'instant, ce n'est pas du tout d'actualité dans la loi française. Ceci dit, à mon avis, on n'a pas besoin d'attendre une loi pour proposer ce dispositif en psychiatrie, cet élargissement. Donc on peut tout à fait travailler dans ce sens-là. Je voulais juste revenir sur la question précédente de nos jeunes étudiants en médecine. Écoutez, c'est une très bonne nouvelle si vous êtes conscient que vous allez devenir aussi mauvais que vos aînés. Donc, protégez-vous-en. Et c'est vrai que nous, on remarque ça très très fort. C'est-à-dire que les premières années sont beaucoup plus perméables encore à cette dimension humaniste. Et après, d'une certaine façon, la technicisation du métier fait qu'on pense autrement. Je ne dis pas que c'est mal de penser autrement, mais je dis que c'est intéressant que vous en rendiez compte. Ça, c'est une première chose. La deuxième remarque que j'ai, c'est, vous avez aussi parfaitement raison, que finalement, la question des directives anticipées ou la réflexion dessus nous amène à des tas d'impasses. Je vous citerai par exemple la situation récente de la petite fille à Marseille, hein, pour laquelle les parents demandent que l'on continue les traitements, alors que les médecins pensent qu'ils ne sont vraiment pas dans le bien faire et qu'ils pensent qu'ils font souffrir cet enfant-là. Et donc, voilà, ce n'est pas si simple, ce n'est pas uniquement une décision de docteur.
Oui. Bonjour, moi je viens de Niort, je suis art-thérapeute et je... il y a un petit moment déjà que j'avais envie de réagir à la dame quand elle parlait des légumes ou des patients végétatifs, enfin oui, on peut dire ça comme ça. Enfin, moi je voulais essayer de se ressortir un petit peu après. Je pense que tout ça, quand j'entends tout ça, que ce soit en psychiatrie, en gériatrie ou autre, hein, je pense que c'est une question de dignité. C'est-à-dire qu'en fait, on a le droit, chaque être humain a le droit de mourir digne, de vivre digne. Et je pense que par l'art-thérapie, j'ai eu un cas particulier d'un monsieur qui était en GR2, donc, et qui était en phase terminale, enfin, qui était vraiment bien atteint de son Alzheimer et parkinsonien. La première fois que je l'ai vu, je me suis dit, je ne vais rien pouvoir faire pour lui. Et il y a un lien qui s'est créé. Et en fait, je pense qu'on on voit ces gens, en effet, comme des plantes vertes, des légumes. Mais c'est simplement parce qu'il n'y a plus la communication, il n'y a plus le lien. Et le lien peut se recréer. Parce qu'en fait, ils sont plus... Ils font plus partie du monde de la société, on va dire. Ils sont mis hors société et ils ont encore une humanité en eux. Et il suffit juste de s'y intéresser. Donc je pense que dans tout ça, que ce soit en psychiatrie, j'ai travaillé aussi en psychiatrie, je suis d'accord. Il y a, je pense, vraiment une histoire de dignité. On est humain, on vit humain et je pense qu'il est important de partir en humain. Voilà. Je ne vais pas étayer si ce monsieur, alors que vraiment... personne n'arrivait plus à parler avec lui. Il y a eu une étape où il était en train de dessiner et à un moment, il a réussi à lever la tête. Et il m'a regardé et il m'a dit, et je suis encore émue, il m'a dit, mais pourquoi vous n'êtes pas venu plus tôt? Voilà.
Merci beaucoup. D'autres interventions, monsieur?
Bonjour.
C'est ça.
Tout le monde parle des situations, puisque c'est des situations qui font peur en fait en fin de vie, et les directives anticipées ont l'air d'être faites pour s'en prémunir. Mais de l'intervention du médecin dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, veuillez m'en excuser, en soins palliatifs, monsieur Desportes, je retiens que. Qui prend la décision, ce qui a l'air d'être plus utile, c'est pas tellement ça que la personnalité de la personne, enfin la personnalité du patient, la personne, je me répète, mais je remarque suite à cela que dans le modèle des directives anticipées estampillées de la République française, celle qui nous a été distribuée dans les pochettes, distribuée en dernier, oui, dans les parties à compléter, information et souhaits, des choses très précises en fait. Ensuite, un modèle A avec des situations, la sédation profonde, ce dont j'ai peur, tout ça. Pareil, modèle B, des cas particuliers, non témoignage, et rien sur ce que vous disiez, sur mes conceptions, par exemple, sur le sens de la vie, et qui pourrait être peut-être plus utile pour le médecin qui prend la décision. Et je me pose la question, donc, est-ce que le législateur n'aurait pas orienté les patients dans la mauvaise direction dans la rédaction de leur directive anticipée?
Voilà. Nous avions invité Alain Claisse ce soir, hein, et donc voilà, il n'est pas là. Peut-être qu'il aurait fallu lui poser la question à lui. Moi, Vous voyez, tous ici, on dit la même chose, c'est-à-dire on dit que c'est peut-être plus important de connaître la personnalité du patient, etc. Mais c'est vrai que ce qu'il y a d'opposable, pour revenir sur votre question, dans les directives anticipées, c'est uniquement les cases. Donc si vous écrivez aujourd'hui des choses sur papier libre, ça donnera une indication forte, mais ce n'est pas opposable. Voilà, ce qui est opposable, c'est ce qu'il y a dans les cases du papier du ministère.
Oui, bonsoir. Yves, je voulais changer un petit peu d'orientation sur le débat, puisque vous êtes toute une commission qui, vous l'avez dit tout à l'heure, allait passer un petit peu partout en France, dans un certain nombre de villes, pour ce rôle difficile d'informer les Français sur les directives anticipées. On peut les écrire ou ne pas les écrire, votre psychologue du soir l'a dit, mais comment allez-vous informer tous les Français? Parce que vous l'avez aussi souligné, personne ne les écrit aujourd'hui. Donc la loi a changé, personne ne les écrit. Une piste, vous avez dit tout à l'heure, les médecins ne les écriront pas, mais tout le monde a un médecin et ils peuvent conseiller cela. Donc n'est-ce pas une piste, par exemple, pour informer sur l'existence et la façon de traiter les directives anticipées dans les familles? Et puis enfin, tout petit détail en plus, vous avez dit tout à l'heure le binôme médecin-soigné, c'est très important le binôme médecin-soigné, mais la loi de 2005 à la base parlait bien du triptyque famille, médecin et soigné. Voilà, je voulais vous le faire. Voilà.
Merci. Une remarque ?
Bonsoir. Je fais juste une remarque sur justement l'information. C'est vrai que, comme finalement je pense que tu l'as dit dans l'introduction, la loi Leonetti, au bout d'un moment, on s'est aperçu que personne ne la connaissait 10 ans après sa promulgation. Alors, ce n'était pas tout à fait exact, parce que ceux qui sont le plus concernés et le plus confrontés à la mort la connaissaient très bien, quoi, les réanimateurs, les gens des unités de soins palliatifs, les cancérologues, etc. Mais le public n'en avait jamais entendu parler. Et donc, après, nous, médecins, on reçoit la loi Claeys-Leonetti et l'amendement. Et on se dit, et on avait pris aussi un peu les devants, ne faisons pas les mêmes erreurs qu'on a fait il y a maintenant 10 ans. Ce coup-ci, mettons un peu d'énergie dans la communication, dans l'information. Et puis, donc là, on a cette soirée de rencontre et on a l'intention d'en faire d'autres, que ce soit le centre des soins palliatifs et de la fin de vie, ou que ce soit les espaces régionaux d'éthique, ont l'intention de communiquer beaucoup et puis de discuter pour que justement ça devienne, c'est un phénomène de notre société, d'évolution de notre société, il faut qu'on en parle et c'est une volonté que l'on partage et qu'on essaye de justement de ne pas refaire les mêmes erreurs du passé, c'est-à-dire pas assez discuter sur le terrain sur ces sujets difficiles.
Oui, juste avant de donner la parole à l'autre salle, une petite remarque, c'est qu'il y a aussi des gens qui vous disent ces directives anticipées, c'est bureaucratique. Moi, je n'ai pas du tout envie d'écrire des... Il y a aussi des gens qui se disent, mais ça ne regarde pas la société, la collectivité, est-ce que je peux en envoyer ? C'est l'argument qui est toujours mis en avant, mais c'est les gens, ils ne sont pas au courant, etc., est un argument qu'on peut retourner. Et c'est pour ça que ces débats sont pour nous très intéressants, c'est de pousser un peu et d'essayer de comprendre pourquoi, sur ce moment si important auquel on va être confronté, pourquoi les gens ont envie de se taire ou ont envie d'autres choses. Voilà. C'est d'essayer de comprendre ça, même s'il y a des gens qui se servent des directives anticipées. Mais il y a aussi de bonnes raisons de ne pas en écrire. Oui, il peut y avoir de bonnes raisons.
Oui, complètement, et ça paraît être un élément. Moi, c'est quand j'ai été confronté à cette réflexion sur les directives anticipées, j'avais vraiment envie que ça soit la première ligne, c'est-à-dire... Vous pouvez ne pas vouloir les écrire. Et ça vous regarde et c'est pas un problème. Et ça ne doit pas être du tout culpabilisant. Après, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on n'a pas envie de les écrire. Mais ça, c'est notre réflexion personnelle qu'on a envie de partager ou qu'on n'a pas envie de partager.
Oui, on va peut-être donner la parole à l'autre salle. Je crois que non, il y avait quelqu'un, c'est ça?
Oui, bonsoir, je suis Alexandre. Je suis en deuxième année de médecine.
Ah, mais il y a toute la fac de médecine en face, là. Ah bon.
Je vais vous poser premièrement une petite question. Toutes ces lois sont en faveur en fait d'une liberté du patient, d'une meilleure autonomie. Mmh. Et en fait, moi, je crains que toutes ces prérogatives, en fait, amènent à une disparition, un effacement, en fait, du rôle du médecin. Dans les directives anticipées, on pourra demander plus tard l'euthanasie et toute cette réflexion aboutirait finalement à une peut-être légalisation de cette euthanasie. Je voyais que tout à l'heure madame parlait de suicide et du coup ça me fait un peu peur. Deuxième chose, un petit peu moins sérieux, ce soir il y a France-Espagne et je vous annonce qu'il y a 0-0 à la mi-temps.
Merci. Alors vous allez vous effacer. Vous allez vous effacer derrière ces patients qui se mettent à parler, ces directives anticipées. C'est une crainte peut-être un peu.
Alors, comme je disais tout à l'heure, il faut se méfier d'une vision un peu idéaliste que nous on a tendance à donner. Et à un moment donné, il y a eu certaines allusions qui ont été faites. Et quand on dit le paternalisme médical est terminé, maintenant c'est vraiment la volonté du patient qui est mise au premier plan. On a tendance à aller vers ça et de plus en plus, mais il y a encore des résistances qui sont majeures. Dans certaines situations, la conviction du médecin l'emporte sur la volonté du patient. Et c'est de ça dont on veut discuter, et c'est comme ça qu'on veut essayer de progresser dans la réflexion de tout le monde. Et pour ce débat, on a besoin justement de s'agiter au niveau de la communauté, pas seulement médicale, on va dire, de la communauté des soignants, et puis on a envie de partager cette réflexion avec vous pour essayer d'avancer. Il faut se méfier, il n'y a pas un schéma d'évolution qui soit très idéal dans notre fonctionnement, même si on progresse.
Juste une petite réponse peut-être sur euthanasie. Je ne crois vraiment pas qu'on puisse écrire dans les directives anticipées. On peut toujours écrire qu'on voudrait une euthanasie active. Mais je vous rappelle, pour l'instant, elle est illégale en France. Et que, de toute façon, dans les pays qui ont adopté ce dispositif, c'est quelque chose qui ne s'écrit pas dans les directives anticipées, c'est quelque chose qui se demande par oral. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une euthanasie active ne peut, quand le pays le permet, ne peut être donnée qu'à quelqu'un qui le demande et dont on est sûr qu'il est consentant, conscient, et au moment où il la demande et au moment où ça va être fait. Donc, il n'y a pas de pays, pour l'instant, à ma connaissance, qui ait écrit quelque chose qui permette d'obtenir une euthanasie active pour le jour où. C'est très important à considérer. Donc, oui, une loi sur l'euthanasie active, c'est une loi de l'ordre des libertés individuelles. Ce n'est pas une injonction faite à un médecin. Et un médecin pourra toujours refuser de faire une euthanasie active s'il ne souhaite pas la faire, même si, par hasard, un jour, il y avait une loi qui autorisait ce dispositif en France. Dans tous les pays qui ont légiféré, c'est pareil. Les médecins qui sont prêts à aider leurs patients qui leur demandent une euthanasie active ne le font que si ils le souhaitent. Et pas, ils peuvent invoquer la clause de conscience et ne pas aller par ce chemin-là. Donc attention de ne pas confondre une injonction faite au médecin avec une diminution du pouvoir médical. Je crois que voilà, c'est des sujets qui sont infiniment subtils et différents.
Une question là.
Donc rebonsoir. En fait, tout à l'heure, vous avez dit que ce qui est opposable est ce qui est dans les causes, dans les cases du ministère. Mais donc ma question est, alors ça sert à quoi que j'écrive mes directives anticipées? C'est ce qui est opposable, c'est les cases du ministère. Parce que là, je ne comprends pas en fait l'objectif de les écrire si ça ne sera pas opposable.
Eh bien, vous avez deux possibilités d'écriture. Soit vous répondez aux questions telles qu'elles sont formulées dans le formulaire du ministère en disant tel tuyau, enfin je caricature, mais le dispositif qui vous est donné. Mais les trois pages qu'a écrit notre ami Camille Desforges, théoriquement, en disant quelles sont ses convictions intimes, celles-là, elles vont guider le médecin. Mais elles ne sont pas opposables. C'est-à-dire que, je ne sais pas, mais sa famille ne pourrait pas dire « Vous avez fait le contraire de ce qu'il a écrit. » Parce que ça ne dicte pas un choix médical. Ça donne une orientation. Moi, je pense, comme vous, que c'est ce qu'il y a de plus utile pour un médecin. Et que comme ça, il pourra décider, en fonction de ce que vous avez écrit sur vos convictions, si tel tuyau ou tel traitement est utile à tel moment ou à tel autre. Alors que si vous remplissez juste la case qui correspond à ce traitement-là, il ne saura pas si c'est le bon moment pour le prescrire ou ne pas le prescrire ou l'arrêter. Vous voyez ? Mais voilà, je vous dis la réalité des choses. C'est-à-dire qu'il est stipulé réglementairement que ce qui est opposable, ce sont les cases claires sur quel traitement je veux qu'on arrête ou qu'on ne poursuive pas, ou qu'on, etc., dans le dispositif du ministère.
C'est un point qui est très compliqué parce que finalement, on a envie d'écrire un état d'esprit et on se rend compte que finalement, ce qui est le plus parlant, c'est de cocher des éléments qui sont très techniques et qu'on ne maîtrise pas forcément. Donc on comprend que ça rajoute de la complexité à l'affaire.
Mais au fond, le médecin, il peut interpréter dans deux sens opposés une conviction. Si vous dites « ma vie n'a plus d'intérêt quand j'aurai plus de relations », il peut penser « si j'arrête ce traitement, c'est sûr qu'il n'a aucune possibilité de récupérer une relation dans 15 jours ou dans 3 semaines ». Et à l'inverse, un autre pourra dire « eh bien, je considère qu'aujourd'hui, il a très peu de chances de récupérer une relation, donc j'arrête ». Donc il y a une interprétation, un espace important pour le médecin pour décider de quel acte il va faire. Et donc ça, la justice ne peut pas rentrer dans cet espace-là. Et c'est pour ça qu'il décide que ne sera opposable juridiquement que des choses extrêmement claires sur le plan juridique concernant tel acte ou tel acte.
Je rajoute simplement, effectivement, il y a la dimension médico-légale, et c'est logique, voilà, la case à cocher, c'est important, effectivement. Moi, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que ça dépend de l'état d'esprit dans lequel vous écrivez vos directives anticipées. Soit c'est pour vous défendre du pouvoir médical, auquel cas les cases à cocher suffisent. Vous défendez contre le pouvoir médical face à la justice. Moi, ce que je vous invite à faire en tant que médecin de soins palliatifs qui ait envie de respecter la volonté de ses patients, c'est que vous les écriviez plutôt dans une dynamique d'aider le médecin à mieux vous comprendre et à mieux comprendre vos positions. C'est dans ce sens-là que je disais, n'hésitez pas à écrire beaucoup plus que ce que la loi demande. Vous aiderez d'autant plus le médecin à prendre les décisions qui sont les plus respectueuses de votre intime volonté.
Nous avons une autre question au planétarium.
Ah ben, allons au planétarium.
Bonsoir. Moi, ma question, c'était en fait en pratique, quand on a des directives qui sont plutôt dans la demande d'obstination de raisonnable, est-ce qu'on les écoute en disant que c'est supérieur à l'interdiction d'obstination ou pas ?
Ça, c'est difficile. Véronique ?
Eh bien, c'est très compliqué, mais c'est pour ça que je pense qu'il faut mesurer un peu ce qu'on dit quand on dit qu'aujourd'hui, je ne sais pas, quelqu'un a dit ça tout à l'heure, que l'acharnement thérapeutique ou l'obstination déraisonnable était illégal en France. C'est moins simple que ça. Aujourd'hui, en tout cas, l'état de la loi est moins simple que ça et moins clair que ça. Donc aujourd'hui, il est dit que les médecins ont un devoir de non-obstination déraisonnable. Mais il est dit que les patients peuvent demander, s'ils le souhaitent, une obstination déraisonnable. Voilà. Et donc, une fois de plus, tant mieux que la loi ne donne pas toutes les réponses aux questions. Et quand il y a obstination déraisonnable de la part de ses parents pour leur petite fille, en tout cas c'est ce que considèrent les médecins, eh bien le juge a décidé qu'il ne fallait pas arrêter les traitements chez cette petite fille parce que les parents ne le souhaitaient pas. Et donc, d'une certaine façon, les juges, au jour d'aujourd'hui, ont donné raison aux parents contre l'équipe médicale. Et donc, si on suit le raisonnement de l'équipe médicale qui dit qu'il y a obstination déraisonnable, ça veut dire que la justice autorise l'obstination déraisonnable. Et que donc, c'est les parents qui ont eu droit d'avoir une obstination déraisonnable pour leur petite fille. sauf si eux considèrent qu'il n'y a pas obstination déraisonnable. Et c'est bien là la subtilité. C'est-à-dire que l'obstination déraisonnable, ce n'est pas un concept objectif. On n'est pas tous d'accord sur le niveau d'obstination déraisonnable. Pour les uns, ça sera déraisonnable de faire manger une vieille dame de très âgée qui a un Alzheimer extrêmement évolué, ou de la perfuser la nuit pour la maintenir hydratée. Et pour d'autres, ça ne sera pas de l'obstination déraisonnable. Qui a raison? Qui a tort?
Il y aura toujours des situations inextricables. Il faut espérer qu'elles soient le plus rares possible. Je pense qu'elles le sont.
Une dernière question. Je parie que c'est un étudiant en médecine. Oui,
j'ai gagné.
Oui, c'est encore moi, désolé. Une simple chose, j'étais l'autre jour en stage avec monsieur Robert René en réanimation, et au cours d'une discussion, on a parlé de l'intentionnalité. L'intentionnalité, c'est quelque chose d'extrêmement important en médecine, c'est ce que j'ai compris, et ça doit guider tous nos actes. On sent bien qu'entre, par exemple, quand on prescrit un doliprane pour quelqu'un qui a mal de tête et lorsqu'on prescrit une sédation profonde et terminale, l'intentionnalité ne doit pas être la même, et elle est très importante. J'ai peur, avec les directives anticipées, d'une dérive possible, parce qu'on se doute bien que la dimension des directives anticipées, lorsqu'elles sont écrites dans l'intentionnalité de guider le médecin vers une fin de vie qui nous correspond et que l'on désire, ou écrire des directives anticipées dans l'objectif de soulager sa famille, j'ai peur d'une dérive entre les deux et je trouve que la nuance peut être importante à bien faire. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez?
Il faut du bon sens quand même.
Ah, le bon sens.
Les directives anticipées, comme on l'a dit à plusieurs reprises,
c'est essentiel. Merci beaucoup. On va laisser la parole pour terminer à Dolores, qui peut-être s'est décidée à écrire ses directives anticipées. Mais je ferai juste une petite remarque. Je suis quand même surpris, quand j'entends les étudiants en médecine, les directives anticipées, c'est quand même pour vous une chance. C'est les patients qui vous disent quelque chose. C'est toujours intéressant quand même un patient qui parle. C'est pas toujours mal intentionné, compliqué. Non, mais je ne suis pas médecin, peut-être que je me trompe. Dolores, alors, ces directives anticipées. Oui.
J'ai pris des notes, donc voilà. Je pourrais rendre mon devoir peut-être dans quelques jours.
Non, un exercice est fini.
En trois pages, si j'ai bien compris. Non, j'ai appris des choses. J'ai appris des choses sur la question des convictions et des croyances, parce qu'effectivement, j'avais cru comprendre en lisant les formulaires que, voilà, elles n'étaient pas opposables, et donc je me suis dit, si elles ne sont pas opposables, finalement ça ne concerne pas vraiment le médecin. Mais effectivement, là, vous écoutez, là, je comprends mieux, ce n'est pas forcément que je vais les écrire, ce n'était pas le but de la chose, parce que justement, le but, c'est d'échanger, de parler et d'être tolérant par rapport aux positions de chacun à ce moment-là de sa vie. Et à ce moment-là de sa réflexion. Mais il y a quelque chose que j'ai entendu et que des médecins et des étudiants en médecine, etc., qui m'a fait associer avec l'intime conviction des juges, parfois, dont ils parlent, dans les cas que finalement les décisions aussi relèvent d'une intime conviction, qui évidemment est partageable, j'imagine, entre dans les décisions aussi collégiales des médecins, et qui, évidemment, le médecin n'est pas tout à fait seul à décider, mais en tout cas voilà cette intime conviction qui relève aussi à la fois de l'expérience, du bon sens, du savoir médical, mais aussi de l'écoute des autres. Voilà, ça me paraît quand même des éléments très importants en tenir compte, et puis de mon cheminement personnel, finalement je ferai bien ce que j'en fais.
Voilà, vous avez toute la liberté d'en écrire comme de ne pas en écrire. En tout cas, merci infiniment, j'espère qu'on vous a pas trop démoralisé. Mais nous, on a été plutôt très intéressés. Merci beaucoup.